Vous êtes sur RTL.
À vous Julien et bonjour à tous. RTL vous propose aujourd'hui une grande journée consacrée à la vaccination. Émission spéciale ce soir de 19h15 à 20h. Thomas Soto répondra à toutes vos questions avec ses invités et ses spécialistes. Le vaccin, la stratégie vaccinale dont nous allons vous donner des cartes dès ce matin. Nous allons faire un tour de France, de la vaccination à Nancy et Bordeaux dès 7h15. Le patron de Doctolib sera ensuite notre invité et nous expliquera comment il entend prendre vos rendez-vous pour la vaccination. Réaction politique à 7h40. Avec la députée européenne et ancienne ministre Nadine Morano. Elle répondra aux questions d'Alba Ventura. Et puis à 8h20, les toutes dernières recommandations du Conseil scientifique avec l'un de ses membres, le professeur Pierre-Louis Druet. Nous sommes le mercredi 13 janvier 2021. Très bonne journée à tous. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
C'est l'image de la nuit, des centaines d'automobilistes piégés par la neige sur l'autoroute A40 entre Lyon et Genève.
Certains contraints de passer la nuit dans leur voiture ravitaillée par la Croix-Rouge. 30 cm de neige et des kilomètres de bouchons. Nous irons sur place où nous attend Raphaël Vantard. Un couvre-feu national à 18h plutôt qu'un reconfinement. Le gouvernement doit trancher ce matin la question au cours d'un nouveau conseil de défense. À Grenoble, des trafiquants de drogue menacent les employés d'une crèche, l'établissement contraint de fermer, l'inaction du maire est pointée du doigt. Et puis quand le patron de Canal+ met la pression sur le foot français, c'est la diffusion des matchs à la télé qui est menacée.
La politique avec Olivier Bost.
Et ce matin, je vous parle des rapports toujours très très tendus entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique.
On se retrouve dès la fin du journal.
RTL Matin.
Un camion en travers de la chaussée et 30 cm de neige qui tombe en quelques heures. Un malheureux concours de circonstances qui a généré hier après-midi des kilomètres d'embouteillage et contraint des centaines d'automobilistes à passer toute une partie de la nuit dans leur voiture. Ça s'est passé sur l'A40 entre Lyon et Genève à hauteur de Bellegarde-sur-Valserine dans l'Ain. C'est là qu'on vous retrouve, Raphaël Vantard. Bonjour.
Bonjour.
Dans cette commune qui s'est mobilisée dès hier soir pour venir en aide à ces naufragés de la route, en ouvrant notamment un gymnase où vous vous trouvez ce matin, Raphaël.
Dès 22h hier soir, les pompiers de Bellegarde déploient des lits de camp, des couvertures dans ce gymnase. Une soixantaine d'automobilistes naufragés de la route se réveillent doucement ici après cette soirée, cette nuit compliquée où ils sont restés parfois 8 heures coincés dans leur voiture. C'est le cas de Jérôme, il rentrait hier soir de son travail.
Je roulais, la neige commençait à tomber et d'un coup on a été bloqué et là la neige a pas arrêté de tomber. Il y avait bien 30 cm facilement, oui, je pense. Ouais. Bon, je suis sorti à la sortie et je suis venu dormir, passer la nuit ici.
Ce qui s'est passé, c'est qu'une neige lourde, abondante est tombée en quelques heures. Il a suffi d'un accident, vous le disiez, de poids lourd pour tout bloquer. Un bouchon classique est apparu, mais avec parfois 5 à 10 cm de neige par heure sur la chaussée. Très vite, les voitures se sont retrouvées ensevelies. Les chasse-neige et les secours ont mis une partie de la nuit à tout déblayer et l'autoroute A40 vient de rouvrir.
Merci Raphaël Vantard, l'envoyé spécial de RTL dans l'Ain.
7h03, reconfinement au couvre-feu élargi. Le gouvernement pressé d'agir se réunit une nouvelle fois ce matin en conseil de défense.
Parmi les différentes pistes étudiées pour le moment. Il y a effectivement ce couvre-feu dès 18h étendu à toute la France, mais toutes les hypothèses restent sur la table. Elles seront tranchées en fonction de deux critères. D'abord le variant britannique, où en est-on ? Et puis les conséquences des fêtes de fin d'année sur les courbes de contamination. Virginie Garin, sur ces deux points, le Conseil scientifique a hier soir apporté quelques éléments de réponse. Quels sont-ils ?
Alors, d'abord, une certitude, le variant britannique est bien là, au rythme de 200 cas par jour, 1% des nouveaux malades détectés depuis une semaine, et il se répand très vite. Si on regarde comment il s'est diffusé en Grande-Bretagne, il pourrait représenter, dans 5 semaines, la moitié des nouvelles contaminations en France, avec le risque de voir nos hôpitaux complètement dépassés. Mais il est encore possible de freiner ce mutant, à 3 conditions, estime le Conseil scientifique. D'abord, renforcer les mesures, un couvre-feu général à 18h ou un reconfinement, c'est au gouvernement de trancher et il peut attendre encore quelques jours pour connaître exactement les effets des fêtes de fin d'année. Et puis, à condition aussi de vacciner le plus vite possible les personnes fragiles, enfin, de maintenir les gestes barrières, le masque a priori reste efficace contre ce nouveau variant.
Virginie Garin, la vaccination, justement, la campagne s'accélère. Objectif 400 000 personnes d'ici la fin de la semaine. Dès demain, les plus de 75 ans qui ne résident pas en EHPAD pourront prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin. Les plus jeunes, eux, moins malades du Covid, on le sait, sont néanmoins davantage touchés par les conséquences éducatives et pour les étudiants, les conséquences sociales et psychologiques lourdes. Démoralisés par l'isolement et par un accès à l'emploi encore plus incertain, beaucoup sont en souffrance. C'est le cas de cette étudiante strasbourgeoise jointe par Juliette Jay.
Pour être honnête, je me sens vide. Depuis qu'on est en distanciel depuis octobre et certaines facs depuis début de l'année, nous, c'est comme si on était confinés tout le temps, en fait. Et personne ne se rend compte de ça. Personne ne se rend compte qu'on est assigné à résidence jusqu'on ne sait pas quand. Bon, déjà, on nous a un peu fait les parias du Covid, comme si c'était nous les responsables. Ce que je demande surtout, c'est de la considération. Oui, retourner en présentiel pour avoir un but et des contacts, vraiment de l'interaction sociale. C'est vraiment ce qui nous manque.
Jean Castex recevra dès vendredi, lui, les représentants de la communauté universitaire. Et puis pour terminer, cette proposition du Premier ministre grec qui demande à Bruxelles la mise en place d'un certificat de vaccination qui pourrait permettre, notamment l'été prochain, de voyager en Europe. L'équivalent peu ou prou du passeport sanitaire proposé il y a quelques semaines par le gouvernement avant d'être retiré sous les critiques qu'il avait suscitées.
Des dealers qui s'en prennent au personnel d'une crèche, ça se passe à Grenoble et la mairie doit gérer la colère des habitants. Reportage dans un instant. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
7h07, la suite du journal de Dominique Tenza. On reparle du quartier sensible de la Villeneuve à Grenoble où des dealers s'en sont pris cette fois au personnel d'une crèche.
Ils ont notamment menacé de mettre le feu au bâtiment. Mais ce qui provoque aujourd'hui la colère des habitants, c'est la décision de la mairie. Plutôt que de sécuriser les lieux, elle a ordonné la fermeture de l'établissement. Serge Peillot.
Dans le quartier de la Villeneuve, beaucoup de familles estiment que la mairie n'aurait pas dû fermer la crèche malgré les menaces des dealers.
Ils ne devraient pas avoir le dernier mot, je trouve ça honteux. Ils veulent faire la loi, je ne sais pas quoi, ils s'attaquent à une crèche avec des petits qui doivent avoir maximum 3 ans et un personnel qui ne demande rien à personne. Bah, je trouve ça dégueulasse, clairement. La mairie, elle devrait plutôt faire quelque chose envers les dealers, peut-être plus de policiers autour de la crèche.
Ça fait mal au cœur hein, de fermeture de la crèche comme ça. On a besoin de la crèche, en fait, dans le quartier.
C'est choquant. Ils ne devraient pas plier devant des jeunes, quoi.
Pour vous, on capitule devant ces dealers?
Tout à fait. On capitule devant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Du côté de la mairie, Nicolas Cada, l'adjoint chargé de l'action sociale, assume la décision de fermeture de la crèche.
Il n'y a aucune capitulation. On ferme très provisoirement, je le répète. On protège nos agents et les enfants. Et donc, on attend simplement un retour à la normale. C'est-à-dire que les auteurs des faits soient appréhendés, identifiés et appréhendés, et qu'il n'y ait plus aucune menace sur le personnel ou sur les enfants.
Une enquête de police a été ouverte pour tenter d'identifier les dealers qui ont menacé le personnel de la crèche.
Un reportage de Serge Peillot. Près de 3 mois après l'assassinat de Samuel Paty, les enquêteurs ont interpellé et placé en garde à vue 7 personnes hier, tous très jeunes, âgés de 17 à 21 ans, et tous soupçonnés d'avoir échangé avec le terroriste à travers le réseau social Snapchat. Aux États-Unis, la plateforme de vidéos en ligne YouTube annonce ce matin qu'elle suspend au moins pour une semaine la chaîne de Donald Trump. Elle a même supprimé une vidéo pour incitation à la violence. Le président américain qui entame sa dernière semaine de mandat s'est rendu hier au Texas sur le chantier de son fameux mur anti-migrant. Il en a profité avant de monter dans son hélicoptère pour réagir à la procédure de destitution engagée contre lui.
À propos de l'impeachment, c'est vraiment la suite de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire de la politique. C'est ridicule, absolument ridicule. Ça cause beaucoup de colère. Moi, je ne veux pas de violence.
Donald Trump hier depuis le Texas.
7h09. Et si le championnat de France de foot n'était plus diffusé à la télé, le patron de Canal+ met la pression sur la Ligue.
Le diffuseur actuel, Mediapro, vous le savez, va fermer sa chaîne. Il ne veut plus payer la Ligue. S'attendait donc logiquement à ce que Canal récupère l'ensemble des droits. Mais surprise, la chaîne cryptée aussi remet en jeu les 2 affiches qu'elle diffusait jusqu'ici, estimant que le championnat avait perdu de sa valeur. Elle réclame un nouvel appel d'offres. Conséquence possible, l'absence de matchs à la télé jusqu'à la fin de la saison, alors que ces droits de diffusion permettent à certains clubs de tirer jusqu'à 70% de leurs revenus. Un scénario catastrophe pour Vincent Chaudel, fondateur de l'Observateur du Sport Business.
Ça commence à faire beaucoup de coups qu'on ne voit pas venir. On n'avait pas vu Mediapro arriver. On peut se mettre à la place de Canal qui n'a pas nécessairement envie de jouer le pompier de service dans un dossier où La Ligue n'a pas été pour le moins indulgente à son égard, du moins par rapport à sa relation passée. Cette position qui est très étonnante fragilise grandement le football français. Aujourd'hui, l'hypothèse de l'écran noir était jusqu'ici théorique. Elle l'est beaucoup moins, malheureusement. Il faut faire très attention aux négociations à venir. Il peut y avoir un problème pour les saisons à venir, mais le vrai problème, c'est déjà pour la saison en cours.
Un propos recueilli par Christian Olivier. Du foot, il y en a ce soir avec un trophée des champions aux airs de classico et de revanche. PSG-Marseille, souvenez-vous, la dernière rencontre entre les deux clubs, c'était en septembre. 5 cartons rouges et bagarre générale. Le match a lieu ce soir au Stade Bollard de Lens, coup d'envoi 21h. Les courses, elles ont lieu à Chantilly. Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 2, le 9, le 15, le 3, le 6, le 8 et le 4. La dernière minute, c'est le 15, Magic Vati.
Et c'était le journal de Dominique Tenza. Il est 7h11, la politique avec vous Olivier Bost. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors c'est toujours très tumultueux hein, entre les magistrats et le pouvoir politique. Racontez-nous ce qui se passe Olivier.
Alors ça s'est passé lundi à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation. C'est un moment unique dans l'année où devant témoins, l'autorité judiciaire peut dire, yeux dans les yeux, au pouvoir politique ce qu'elle a à lui dire. Chantal Arens, la première présidente de la Cour de cassation, a fait un discours, puis François Molins, dont tout le monde se souvient lors des attentats de 2015, il est aujourd'hui procureur général près la Cour de cassation. Dans la salle, au premier rang, pour les écouter, le Premier ministre, le garde des Sceaux et un aéropage d'officiels. Et tout le monde a scruté les moindres messages ou les moindres sous-entendus de ces discours.
Pourquoi une telle tension, Olivier ?
Alors, je vous rappelle rapidement quelques épisodes précédents, ces grandes messes de lundi, quelques éléments d'ambiance en quelque sorte. Juste avant le week-end, vendredi, François Molins a annoncé l'ouverture prochaine d'une information judiciaire visant le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est accusé par deux syndicats de magistrats de conflit d'intérêts entre ses fonctions actuelles de ministre et ses précédentes activités d'avocat. Une situation qu'avait dénoncé François Molins avec Chantal Arens fin septembre dans une tribune dans le journal Le Monde. Tribune pour le moins inhabituelle de la part des deux plus hauts magistrats de France. Oui. Autre élément de contexte, des procédures visent des ministres en exercice dans la gestion de la crise sanitaire. Récemment, les juges ont demandé par courrier au président des deux assemblées, Gérard Larcher et Richard Ferrand, la teneur de leur conversation avec Emmanuel Macron sur la gestion de la crise sanitaire. Tous les deux ont refusé.
Alors, quand ont dit les deux plus hauts magistrats de France lundi dans leur discours pour le
Alors, coup. François Molins a défendu l'indépendance totale de la justice. Il a justifié ses procédures en pleine crise et défendu l'institution menacée, dit-il, par les critiques. Une phrase de François Molins, en particulier, a fait bondir un membre de la majorité. La Cour de justice de la République et le tribunal de Paris n'auront bien sûr aucune leçon politique à donner, a-t-il dit. Qui s'excuse d'avance, s'accuse, estime un conseiller ministériel. On peut dire que nous sommes nuls, archi nuls, s'étrangle la ministre, mais ce n'est pas à la justice de nous sanctionner, c'est aux électeurs de le faire. Un haut responsable de l'État parle d'un véritable malaise avec l'institution judiciaire et s'agace. Ils veulent la peau de Dupond-Moretti, ils ne l'auront pas. Et un dirigeant de la majorité raconte, et balance carrément, François Molins avait été approché, testé pour devenir garde des Sceaux au moment du remaniement. Il n'a pas été retenu. C'est aussi la revanche d'un homme éconduit.
Eh bien, tout cela n'est pas fini. Merci beaucoup, Olivier. Je vous rappelle qu'à 7h40, c'est Nadine Morano, ancien ministre, désormais députée européenne du Parti des Républicains, qui répondra aux questions d'Alba Ventura. Dans un instant, Tour de France, de la vaccination en région, grâce à nos correspondants. Et nous serons aussi avec le patron de la plateforme Doctolib, qui va permettre d'organiser la prise de rendez-vous pour le vaccin. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h16, bonne journée sur RTL. C'est l'heure de retrouver notre brigade de l'actualité pour faire un point sur la campagne de vaccination contre le coronavirus. La France approche les 190 000 personnes vaccinées selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. Prenons la direction de Nancy, où les Français de plus de 75 ans qui ne vivent pas en EHPAD peuvent se faire vacciner depuis hier. Bonjour Dimitri Ramelot.
Bonjour Yves.
La campagne de vaccination devrait même monter en puissance à partir d'aujourd'hui. Dimitri, notamment grâce à l'arrivée du vaccin Moderna.
Oui, le nouveau vaccin Moderna doit être livré aujourd'hui au CHU de Nancy. 3600 doses précisément, mais pas seulement, puisque 7800 doses du vaccin Pfizer utilisé depuis le 31 décembre et à destination des personnels soignants doivent également arriver dans les congélateurs de l'hôpital. Toutes ces doses vont être injectées dans les jours qui viennent aux médecins, infirmiers, pompiers qui n'ont pas encore été vaccinés, mais aussi à une très grande majorité des plus de 75 ans habitant la métropole de Nancy qui ne vivent pas en EHPAD et qui vont commencer à recevoir les injections dès ce matin. Et il y a urgence car la situation sanitaire reste très tendue dans la région Grand Est. Le principal indicateur, le taux d'incidence est mauvais avec 237,8 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Il grimpe à 262 chez les plus de 65 ans. Et pour être encore plus efficace, les autorités mettront en place dès la fin de semaine un dispositif appelé cellule d'appui mobile pour aller au contact des plus de 75 ans vivant à domicile qui ne peuvent pas se déplacer dans un centre pour se faire vacciner.
Merci Dimitri Ramelot. RTL à Nancy, direction Bordeaux maintenant. Bonjour Philippe Demaria.
Bonjour Yves.
Ça se passe plutôt bien chez vous, hein, aussi cette campagne de vaccination. La Nouvelle-Aquitaine, deuxième région en nombre de bénéficiaires de la vaccination.
Oui, plus de 18 000 personnes à ce jour. Ça a commencé le 4 janvier dernier. Avant-hier, lundi, 4 500 soignants ont été vaccinés, ce qui est honorable. Et comme ailleurs, ce sont donc les soignants de plus de 50 ans qui sont prioritaires. La demande, en fait, est très forte et les doses de vaccins partent comme des petits pains dès qu'elles sont disponibles.
Alors, aucun triomphalisme chez vous, hein, j'imagine. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il aussi correctement ?
Alors, le dispositif comme ailleurs est en place. On compte 10 centres de vaccination en Gironde et 40 pour la Nouvelle-Aquitaine. Et oui, on souligne ici la très bonne implication des médecins libéraux. À Arcachon, par exemple, le centre hospitalier public donc vaccine à tour de bras son personnel. Et les médecins libéraux ont leur propre structure dans la ville qui vaccine notamment les soignants du privé. Oui. Et cette implication des médecins est primordiale pour la suite des opérations car tout doit être en place pour vacciner les plus de 75 ans. Les médecins de ville seront évidemment en première ligne pour guider leurs patients qu'ils connaissent bien vers la vaccination, signaler ceux qui ont par exemple des problèmes allergiques. Oui. Et cette vaccination des plus de 75 ans doit être en place, dans le meilleur des cas, dès lundi prochain, ici en Nouvelle-Aquitaine. Ça arrive très vite.
RTL à Bordeaux, merci beaucoup Philippe Demaria. Et bonjour Stanislas Niox-Château.
Bonjour Yves Calvier.
Vous êtes patron de Doctolib, l'une des trois plateformes sélectionnées par le gouvernement pour organiser les rendez-vous de cette campagne de vaccination. Très simplement, expliquez-nous comment on peut prendre rendez-vous.
Alors, à partir de demain, oui, les patients de plus de 75 ans pourront aller sur santé.fr ou sur Doctolib. Oui. Ils pourront choisir leur centre de vaccination près de chez eux, prendre un rendez-vous en ligne comme ils le font d'habitude sur Doctolib, prendre un rendez-vous pour les deux injections de manière simultanée. Et ensuite, ils recevront SMS, email de rappel, information, et ils se présentent au centre de vaccination pour se faire vacciner. Le gouvernement a choisi de faire quelque chose de rapide et simple, exactement comme ça l'est sur Doctolib, pour aller voir votre médecin généraliste ou votre dentiste.
Alors, très, très simplement, j'insiste, hein, c'est en se connectant sur votre site ou sur votre application, nous sommes bien d'accord.
Exactement, donc santé.fr ou Doctolib, et derrière, prise de rendez-vous de manière simple en quelques clics.
Tout le monde, alors dans la catégorie d'âge, bien entendu, tout le monde peut s'inscrire ou c'est encore réservé uniquement à certaines catégories pour l'instant ?
Non, non, alors bien sûr, seules les populations éligibles peuvent prendre un rendez-vous. De toute façon, seules ces populations seront vaccinées dans les centres de vaccination. Mais plus la campagne de vaccination va avancer dans le temps, plus les populations éligibles seront nombreuses.
Donc à partir de demain, les plus de 75 ans, nous sommes d'accord ?
Exactement. Donc professionnels de santé de plus de 50 ans présentant des comorbidités dès aujourd'hui. Oui. Et patients de plus de 75 ans à partir de demain pour une prise de rendez-vous pour se faire vacciner à partir de lundi.
Vous avez une idée fait des projections sur le nombre de Français qui pourraient vous solliciter ?
Alors non, en fait, ça dépendra du nombre de doses et ça dépendra de ce que le gouvernement souhaite faire. Nous, ce qu'on a fait, c'est il y avait 150 centres de vaccination qui se sont créés sur les derniers jours. Ils seront entre 5 et 600 dans les prochaines heures. Oui. On a développé depuis 2 mois une technologie pour leur permettre de gérer les centaines de milliers ou les millions de Français qui vont aller se faire vacciner. Donc, gérer les plages de vaccination en fonction du nombre de doses, gérer la surveillance post-vaccinale. Et donc, on a mis notre technologie pour ces centres, oui, pour qu'ils reçoivent ces millions de Français. Derrière, chaque centre s'organisera et l'État organisera la campagne de vaccination comme il le souhaite.
Et l'utilisation de Doctolib pour cette campagne de vaccination sera totalement gratuite ?
Alors non, c'est l'État qui financera ça. Pour les centres, ce sera 100% gratuit. Mmh. L'État financera les développements de Doctolib. Ça fait 2 mois qu'on travaille sur le sujet et qu'on a mis 150 personnes pour aller déployer les 500-600 centres un peu partout en France.
Le système est-il déjà bien opérationnel au moment où nous parlons? C'est-à-dire, est-ce que les tests que vous avez faits vous semblent efficaces?
Oui, alors c'est une très bonne question. On a développé ce système sur les 2 derniers mois. L'État allemand nous a choisi pour lancer les centres de vaccination de l'État fédéral de Berlin, opérationnel depuis le 27 décembre dernier. Déjà des dizaines de milliers de rendez-vous ont été pris. 150 centres de vaccination lancés la semaine dernière, 5 à 600 cette semaine. Le système est 100% opérationnel. Pour être honnête, il est assez proche du système de prise de rendez-vous d'Octolib que 42 millions de Français connaissent bien. Donc pas de complexité, rapidité, simplicité, c'était ce qu'on souhaitait faire.
Une toute dernière question, puisqu'elle a été soulevée. Il n'est pas question de créer un fichier des vaccinés, nous sommes bien d'accord. Ça a été évoqué notamment par des responsables de la France Insoumise.
Absolument pas. Seuls les patients et les professionnels de santé ont accès à leurs données. Elles sont chiffrées, protégées, sécurisées, respectant bien sûr l'ensemble des lois françaises et européennes. Aucun sujet concernant la sécurité et la protection des données.
Doctolib est donc en place et ce sera dès demain pour les premières prises de rendez-vous. Merci beaucoup Stanislas Nocchateau. Je rappelle que vous êtes président de la plateforme Doctolib. Et notez ce rendez-vous donc ce soir sur RTL, une nouvelle fois émission spéciale vaccin avec Thomas Soto dans RTL de soir à partir de 19h15 avec nos invités, notre brigade de l'actualité et nos spécialistes qui répondront à toutes vos questions. Vous pourrez appeler le standard d'RTL. Avant la météo avec Louis Bodin qui nous rejoint. Bonjour cher Louis.
Bonjour.
Nous allons rire avec Christine Bravo, très en forme dans les grosses têtes, et Anthony Martin va nous faire découvrir une de ses pépites musicales. Bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et à tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
25, lors de notre pépite musicale, Anthony Martin, nous sommes tout oui.
Alors dans notre catégorie, rendons à César ce qui lui appartient.
Ah oui.
Intéressons-nous à cette chanson.
I got my mind set on you. I got my mind set.
Got My Mind Set On You, immense succès solo de George Harrison, classé numéro 1 un peu partout en 1987, extrait de son album Cloud 9. George Harrison a été le premier des Beatles à mettre un pied aux États-Unis en septembre 1963, 5 mois avant la première télévision du groupe au Ed Sullivan Show. Eh bien, il est allé rendre visite à sa sœur, Louise, qui vivait dans l'état de l'Illinois. Il avait fait le tour des disquaires et avait acheté le premier album d'un jeune chanteur black, James Ray. Bon, l'album n'était pas terrible, excepté la plage 3, une chanson intitulée « I've got my mind set on you ». Son idée était de proposer aux Beatles d'en faire une reprise, idée rejetée immédiatement par Lennon et McCartney. Mais George Harrison n'a jamais oublié cette chanson et 24 ans plus tard, lors d'une séance de travail sur son album Cloud 9, le batteur a improvisé un rythme qui lui a rappelé la chanson. Il est allé la rechercher et la transformer en morceau pop positif, léger, imparable. Ce morceau n'est donc pas sorti de l'imagination de l'ex-Beatles dans le manoir anglais où il l'a enregistré. Il est né aux États-Unis dans les années 60. C'est notre pépite du jour, I've Got My Mind Set On You par James Ray. I've got my mind set on you, petite bluette R&B chantée par l'américain James Ray en 1962. Destin tragique pour ce jeune chanteur de 21 ans, il est mort d'overdose peu de temps après. Il reste l'interprète de la version originale du tube de George Harrison.
James Ray et sa fanfare, hein, nous l'avons entendu. À demain Anthony, merci beaucoup. Le rendez-vous avec nos grosses têtes cet après-midi de 15h30 à 18h, autour de Laurent Ruquier. Je crois que Christine Bravo rentre de Cuba, tiens.
À Cuba, les flics m'applaudissaient en disant...
Ah, vous revenez de Cuba ?
Oui, bah oui, oui, je reviens de Cuba, comme tout le monde.
T'es revenu hier, non ?
À la notion de société égalitaire, j'ai cru...
C'est vrai que tous les Français reviennent de Cuba.
Oui.
Mais il y avait un problème dans la piscine pour avoir des cheveux comme ça ?
Non, mais je me suis coloré les cheveux en honneur au Che.
Ah oui, là-bas, on l'a surnommé la Chie Guevara.
Je peux dire qu'elle s'est très bien comportée dans l'avion.
Ah bon ?
Sur le vol retour, parce que l'équipage m'a envoyé une photo en me disant qu'elle se tenait bien, qu'elle buvait pas trop, qu'elle était très gentille.
Ah ouais, ça
mais il y a eu des turbulences, elle s'est renversée le vin sur les cheveux.
Mais c'est pas ça, je suis un peu en décalage horaire.
Ah oui ? Mais on est tous en décalage, on vient tous de Cuba.
Rendez-vous dès 15h30 avec nos grosses têtes. Louis Baudin, on fait un point rapide de notre météo.
Oui, oui, bah ça va être facile parce qu'en fait, ça va être encore gris et couvert sur toute la France. En revanche, fin de l'épisode de neige qui a donné ses intempéries et ses conditions difficiles du côté de l'Ain ou encore de la Haute-Savoie. En revanche, il restera un fort risque d'avalanche dans les Alpes du Nord en raison de ces chutes de neige. On a eu parfois 20-30 cm de neige fraîche et puis ça va continuer encore un peu aujourd'hui dans une moindre mesure. Quelques flocons également sur les Vosges et le Jura. Là aussi, on suivra des coulées de neige. Et puis quand même, quelques éclaircies près de l'Atlantique. Et surtout sur les bords de la Méditerranée où avec l'aide du Mistral et de la Tramontane le ciel sera plus dégagé. Les températures encore quelques gelées ce matin du côté d'Épinal, Metz, Nancy ou encore à Chamonix, donc prudence sur les routes. Et cet après-midi 3 à 6 degrés seulement de la région Rhône-Alpes au nord-est, mais 5 à 10 degrés dans les autres régions. Nous revoilà dans des valeurs de saison, voire un peu au-dessus et parfois 12 à 15 degrés près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis, merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 13 janvier. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Comme un air de déjà-vu ce matin, après Pénélope Fillon, Cécilia Sarkozy est soupçonnée à son tour d'avoir bénéficié d'un emploi fictif. C'est ce qu'affirme le Canard Enchaîné, Marie Mollet.
Oui, retour en juillet 2002. Nicolas Sarkozy est déjà une vedette et vient d'être nommé ministre de l'Intérieur. Il quitte donc le Palais Bourbon et son mandat de député. Sa suppléante le remplace et aussitôt embauche une collaboratrice parlementaire, une certaine Cécilia Sarkozy. Le salaire est confortable, 3000 euros net pour un temps partiel, durée du contrat 9 mois. Sauf qu'à l'époque, Cécilia Sarkozy est occupée ailleurs. Elle travaille à Beauvau pour son mari où elle a un bureau. Elle est sa conseillère, dévouée et pas rémunérée, jure-t-elle en 2002. Dans ce cas, pourquoi était-elle payée par le Palais Bourbon ? Quelle était sa mission ? A-t-elle produit des notes, des fiches pour sa députée ? Le Canard Enchaîné n'en a pas trouvé trace, mais l'entourage de Nicolas Sarkozy dément. Elle suivait bien les dossiers de la circonscription sur le terrain dans les Hauts-de-Seine. En tout cas, l'affaire a des points communs avec celle de Pénélope Fillon. À une différence près, cette fois-ci, les faits sont prescrits.
Marie Mollet du service politique d'RTL.
L'actualité de la nuit, ce sont ces automobilistes bloqués sur l'autoroute A40 dans l'Ain à cause de la neige.
Oui, il est tombé plus de 30 cm par endroit dans l'Ain, mais aussi en Savoie et en Haute-Savoie. Résultat, jusqu'à 2000 véhicules se sont retrouvés bloqués dans les deux sens à hauteur de Bellegarde. Ce matin, c'est terminé, mais certains ont passé 10 heures dans leur voiture. D'autres ont trouvé refuge dans un gymnase à Bellegarde et parmi eux, Jérôme qui rentrait du travail.
J'étais bloqué sur l'autoroute depuis 15 heures. Apparemment, il y avait un camion qui bloquait les deux sens de l'autoroute. L'autoroute n'était pas déneigée. Du coup, les voitures avaient du mal aussi à repartir. Quoi. À 22h30, j'ai pu sortir à la sortie de Bellegarde. Et j'ai trouvé une élue de la ville de Bellegarde qui m'a dit qu'ils allaient ouvrir un gymnase. Et je suis venu dormir, passer la nuit ici.
Comment vous vous sentez ce matin ?
Bah, un peu fatigué, mais bon. On a été bien accueillis par la ville de Bellegarde, donc c'est très bien comme ça.
Jérôme, naufragé de la route au micro RTL de Raphaël Vantard. Ce matin, seule la Haute-Savoie reste en alerte orange car le froid va résister dans la vallée d'Arve avec de la neige dès 500 mètres. Sur le front du Covid, reconfinement, couvre-feu élargi, on sera fixé demain. Le gouvernement scrute les indicateurs sanitaires avec deux inquiétudes. Les conséquences des rassemblements familiaux pour les fêtes de fin d'année et la propagation du variant anglais du virus. Le conseil scientifique a rendu son rapport hier. Son président Jean-François Delfraissy reste très prudent.
Ce mutant anglais, les masques
masque, le lavage des mains, il est sensible à ces mesures. Donc poursuivons ces mesures. Deuxièmement, essayons d'éviter qu'il y ait trop de virus anglais qui arrivent d'Angleterre, probablement avec une restriction des voyages qui peuvent se faire. Et puis, le troisième point, c'est qu'il y aura probablement un certain nombre de mesures plus strictes à prendre.
Confinement ou pas confinement ?
Je ne vous répondrai pas ce soir.
Jean-François Delfraissy hier sur TF1. Aujourd'hui, Conseil de défense sanitaire avant la prise de parole de Jean Castex demain. Plus de 19 000 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Le variant britannique représente désormais 1% des nouvelles contaminations. Et le taux d'incidence est en hausse dans toutes les tranches d'âge, y compris chez les jeunes. De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer la fermeture des cantines scolaires. Une fausse bonne idée selon Philippe Vincent du syndicat des chefs d'établissement.
Dans beaucoup d'établissements, si on ferme la restauration scolaire, on empêche aussi quasiment les élèves de venir, puisque beaucoup d'établissements fonctionnent en journée continue, avec des élèves qui ont des transports scolaires, et donc qui sont dans l'établissement toute la journée. Si on les nourrit pas, qu'est-ce qu'on en fait? Si on donne des paniers repas aux élèves, ils vont bien aller les manger quelque part? Ou comment? Avec quelle surveillance? Est-ce qu'on n'est pas en train, potentiellement, de créer plus de risques dans un système ouvert que dans un système contrôlé, quoi?
Philippe Vincent, joint pour RTL par Juliette G. Nous partons maintenant à Besançon. Vous vous souvenez sans doute de ce boulanger qui s'est mis en grève de la faim il y a 10 jours pour protester contre l'expulsion de son apprenti qui est guinéen. Eh bien, Stéphane Ravaclé a fait un malaise hier. Il a dû être brièvement hospitalisé. Malgré tout, il continue le combat.
Je vais continuer et les prochains jours, je vais calmer un petit peu le travail. Je travaillerai que 10 heures au lieu de 15, c'est prévu. J'arrête pas parce que le gouvernement est aveugle et sourd. Donc voilà, non, de toute façon, rien ne m'arrête.
Stéphane Ravaclé avec Hortense Crépin. L'apprenti a saisi la justice. Sa requête sera examinée le 26 janvier. Aux États-Unis, le vice-président Mike Pence confirme qu'il n'invoquera pas le 25e amendement pour démettre Donald Trump de ses fonctions. Tout va donc se jouer au Congrès où une deuxième procédure de destitution doit être lancée dès cette semaine.
7h35, le foot français menacé de blackout.
Oui, après le retrait de Mediapro, voilà maintenant que Canal+ se désengage. Dans une interview au Figaro, le patron Maxime Saada annonce qu'il va rendre les droits des deux matchs qu'il diffuse actuellement le week-end. Il réclame un nouvel appel d'offres global. La Ligue 1 pourrait tout simplement se retrouver sans diffuseur. Le foot ce soir, c'est PSG-OM dans le trophée des champions. Mais vous ne le lirez pas dans l'équipe au petit déjeuner. 5e jour de grève pour le quotidien sportif. Les salariés dénoncent la suppression de 50 postes.
C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet. On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, ce matin, enfilez vos chaussures de rando. On va marcher en compagnie d'une ado rebelle.
Merci Isabelle et bonjour François Langlais.
Bonjour.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h38, l'Angleco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Alors, la célèbre marque de chaussures est au pied de la Bourse de Londres. Je précise qu'on prononce bien Doc Martens historiquement, nous sommes d'accord.
Doc Martens, c'est la chaussure star du rock britannique.
Mais oui.
Elle va en effet être introduite à la Bourse de Londres dans les semaines qui viennent et les investisseurs pourraient s'y ruer à grandes enjambées parce que c'est une très belle entreprise. 11 millions de ces bottes monumentales, souvent colorées, sont vendues chaque année dans 60 pays. Avec en particulier la paire mythique, la 1460, qu'on a appelée comme ça parce que elle a été lancée le 1er avril 1960.
D'accord.
Chiffre d'affaires de 750 millions d'euros avec un résultat de 200 millions. C'est ce qui s'appelle marcher sur du velours. Plus remarquable encore, les ventes ont progressé de 14% pendant le confinement, malgré la fermeture des magasins, grâce à l'Internet.
Mais d'où viennent-elles ces chaussures désormais mythiques ?
Eh ben, à l'origine, juste après la guerre, il y a bien un docteur Klaus Martens. Et ah. Il est allemand, oui, et il fabrique une demi-botte avec une semelle très épaisse parce que elle contient un coussin d'air. C'est ce qu'on appelle une chaussure de sécurité, pour améliorer le confort des ouvriers qui se tiennent debout toute la journée et pour améliorer le sort des retraités bavaroises qui ont des problèmes de dos. Le docteur Martens fait de la pub dans un journal britannique. Et puis voilà qu'il est repéré par une petite entreprise familiale du nord de l'Angleterre qui rachète la marque et la lance là-bas, la fabrique là-bas, à destination notamment des facteurs britanniques. Et puis à la fin des années 60, exactement comme le jean, ce vêtement de travail est récupéré par la jeunesse contestataire anglaise qui en fait l'un de ses attributs pour les garçons comme pour les filles. Mais son véritable essor commence à la fin des années 70 et avec l'arrivée des skinheads, du mouvement punk, du ska, des groupes de rock Clash ou The Cure auxquels elle se lie. La mondialisation du rock anglais, qui est quand même le meilleur du monde, lui offre une campagne de promotion planétaire. La Doc Martens connaîtra ensuite une longue éclipse pour réapparaître à la fin des années 90, récupérée par les magazines de mode.
Mais qu'est-ce que cette chaussure d'origine allemande va aller faire en bourse aujourd'hui ?
chercher de l'argent pour se développer, en particulier pour investir dans la vente en ligne. Elle est depuis 2013 la propriété d'un fonds d'investissement qui s'appelle Pemira, qui l'a racheté assez mal en point et l'a remis sur pied, si je puis dire. La fabrication des chaussures a été délocalisée en Asie, ce qui permet quand même des marges très confortables, hein, encore meilleures que celles des chaussures de sport. Pour acheter une paire de Doc Martens, il faut quand même compter 150 euros minimum. Il y a même un modèle vegan, avec du cuir qui n'est pas animal. Vous voyez que la chaussure emblématique de la contre-culture anglaise, c'est bien assagi. Elle a épousé en fait les contraintes de l'économie mondialisée au point d'aller se faire coter au temple de la finance, le London Stock Exchange. Joe Strummer, le guitariste chanteur des Clash, doit se retourner dans sa tombe.
Ah oui, moi je suis ravi qu'il y ait une chaussure vegan pour les punks à chiens, c'est formidable. Alors j'ai envie de vous dire merci Doc, et à demain.
À demain.
Il est 7h42, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Après les masques et les tests, les élus de droite montent au front pour dénoncer la stratégie vaccinale et les décisions du gouvernement. Je reçois l'eurodéputée Nadine Morano.
A tout de suite avec Nadine Morano sur RTL, il est 7h42.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la députée européenne, ancien ministre des Républicains, Nadine Morano.
Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Un conseil de défense a lieu ce matin à l'Élysée. Sans doute demain, de nouvelles décisions pourraient être prises. On sait que la circulation du variant britannique est assez forte. Hein. Je crois qu'on nous dit 200 cas du variant par jour. Est-ce qu'il faut reconfiner ?
Non, je suis totalement opposée au reconfinement. Vous savez, ces stratégies de confinement sont des stratégies à très court terme. En fait, c'est pour casser momentanément, on va dire, la propagation du virus, mais en aucun cas l'enrayer. En fait, ce qui me choque beaucoup dans la stratégie du gouvernement, c'est qu'il ne cible pas ce qui devrait l'être. Aujourd'hui, quel est notre problème ? Notre problème, c'est la saturation des hôpitaux. Qui se retrouve dans les hôpitaux ? Majoritairement des personnes âgées qu'il nous faut protéger et des personnes vulnérables. J'ai d'ailleurs sollicité le Premier ministre, je lui ai dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le gouvernement ne communique pas sur la gratuité des masques pour les plus de 65 ans, puisque vous l'avez mis en place sur la base d'une ordonnance médicale. Les plus de 65 ans, les personnes vulnérables peuvent aller chercher leur masque en pharmacie, donc pour mieux se protéger. Parce
mais
qu'il
pourquoi
faut
vous avez constaté que les personnes âgées de plus de 65 ans les,
d'abord, beaucoup ne le savent pas.
Ne s'achetaient pas de masque.
Beaucoup ne le savent pas. Si, vous, bien sûr, maintenant, porter un masque, c'est devenu, on va dire, permanent. Enfin, tout le monde porte un masque, mais j'ai constaté, et beaucoup le constatent, et même les médecins nous le disent, que des personnes portent ce que j'ai appelé des masques d'apparence, des masques qui n'ont plus d'efficacité, qu'on va garder dans la poche pendant 2-3 semaines, et parce que les masques, ça coûte cher. Et si on donne...
Et vous avez raison, parce que le professeur Delfrécy a redit hier soir, d'ailleurs, que le masque, c'était vraiment la mesure barrière essentielle.
Mais bien sûr, le lavage des mains, les masques, et notre objectif, c'est quoi ? C'est que les hôpitaux ne soient plus saturés. Pour qu'ils ne soient plus saturés, il faut protéger les bonnes personnes, celles que nous devons...
Mais c'est pas le cas ? Regardez,
est-ce que vous entendez le gouvernement communiquer sur ce sujet ? Jamais. Et je ne comprends pas. Le Premier ministre a eu l'amabilité de me répondre que c'était une excellente suggestion. J'attends à ce qu'il le mette en œuvre.
Vous avez appelé le Premier ministre ?
Je lui ai envoyé un SMS, il m'a répondu. Je ne comprends pas pourquoi, alors que le gouvernement dispose du fichier de la sécurité sociale, puisque vous savez que les personnes de plus de 65 ans peuvent avoir accès au vaccin pour la grippe, et donc ils reçoivent un courrier. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une information systématique et permanente vis-à-vis de ces personnes les plus fragiles et plus vulnérables.
La priorité de la vaccination, ce sont les personnes en EHPAD et désormais les personnes de plus de 75 ans hors EHPAD.
Est-ce que vous avez remarqué que le gouvernement, et c'est vraiment un de ses principaux défauts, c'est qu'il est en retard sur tout, en retard sur les masques dès le début de l'année dernière. Rappelez-vous, il y a à peine un an, lorsque Agnès Buzyn était au grand jury RTL, d'ailleurs, elle disait le masque bleu ne protège de rien. Il y a un an, c'était le 26 janvier 2020 sur un de vos plateaux. Donc on voit bien qu'ils ont été en retard sur les masques. Ils nous ont menti sur les masques. Après, ils ont été très en retard sur les tests. Maintenant, ils sont en retard sur la vaccination. Pardon, mais vous savez qu'ils disposent de 1 million de vaccins. Et donc, ils pourraient vacciner. On en est à peine à 200 000. Là aussi, ils ont pris un retard monumental.
Je reviens à la question que je vous posais sur le reconfinement. Vous avez bien vu que de nombreux pays prennent des restrictions. L'Allemagne, Angela Merkel, a dit hier, sans doute prolongation du confinement jusqu'à début avril. Les Pays-Bas prolongent le confinement jusqu'au 9 février. Donc c'est vraiment une question qui vous paraît absurde ?
Ça me paraît une mauvaise analyse. Encore une fois, qui est hospitalisé dans les services de réanimation ? J'ai eu la Covid aussi, je connais beaucoup de gens qui ont eu la Covid. On confond ceux qui ont été contaminés et ceux qui font une forme grave de la maladie. Donc nous devons mieux protéger ces personnes. Et attention, je ne dis pas qu'il faut confiner les personnes âgées chez elles. Moi, je suis pour qu'on respecte nos libertés fondamentales. Mais je suis favorable à ce que nous les protégions mieux, à ce que nous les informions mieux, à ce que cette responsabilité individuelle qui est la nôtre de nous protéger est aussi une responsabilité collective vis-à-vis de ces personnes qui sont susceptibles d'avoir une forme grave de la maladie.
Le couvre-feu, est-ce qu'il est suffisant ? Vous êtes originaire de Nancy, vous avez longtemps été élu de Toul, région qui se trouve
dans
une situation...
Mais je vis dans Lorraine.
Très critique, vous vivez en Lorraine. Oui. Il suffit le couvre-feu,
mais,
donc
mais franchement, quelle est la conséquence de ce couvre-feu ? Les gens vont en masse dans les magasins 2 heures avant. La conséquence est dramatique sur nos commerçants qui sont obligés de fermer plus tôt. Et ce que je reproche à ce gouvernement, c'est que d'abord, on n'a pas d'études qui nous montrent que le confinement ralentit la propagation du virus. Aucune étude sur ce sujet. Et que par ailleurs, si on veut vraiment enrayer la saturation de nos hôpitaux, il faut mieux cibler ceux qui sont susceptibles de s'y retrouver. Or, ça n'est pas le cas. Et on fait peser sur tout le monde, sur nos jeunes, sur les entreprises, sur les stations de ski qu'on empêche de rouvrir les remontées mécaniques. Mais c'est absurde. Absurde. Je demande au gouvernement de réfléchir à ce qu'il fait.
C'est-à-dire, parce que les conséquences... Il faut ouvrir les stations de ski.
Mais bien sûr, il faut ouvrir les stations de ski. Ils prennent toutes les mesures sanitaires, barrières. Les maires sont des maires responsables. Il faut arrêter cette gouvernance par la peur que fait le gouvernement.
Il faut
miser sur la responsabilisation de chacun et de tous. C'est ça qui est important. On a tous conscience qu'il faut protéger les personnes âgées. Donc, il faut... Et les personnes vulnérables. C'est notre responsabilité à chacun. Mmh. Mais vous rendez compte des conséquences collatérales que subissent nos jeunes, les étudiants.
Nadine Morano,
subissent les commerçants, les chefs d'entreprise. Enfin, c'est inacceptable.
Vous étiez au gouvernement au moment de la grippe H1N1. Vous vous souvenez bien que... Et notamment sur les vaccins, il y a eu des tirages aussi. Ils n'étaient pas d'accord, Roselyne Bachelot, Nicolas Sarkozy.
Je peux vous dire que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président, a mis un point d'honneur à protéger la population, à protéger les Français, à faire la commande des vaccins. Alors après, on nous a fait le procès en disant « vous en avez trop ». Mais je peux vous dire, vaut mieux en avoir trop. Il vaut mieux avoir trop de masques. Nous, quand on a quitté le pouvoir, il y avait 1,4 milliard de masques dans le stock stratégique. Mmh. On avait mis en place, sous Jacques Chirac d'ailleurs, un établissement qui s'appelait Léprus, qui était un établissement qui gérait d'ailleurs tout le matériel sanitaire stratégique pour faire face justement. Gouverner, c'est prévoir. Eh bien, ce gouvernement ne prévoit pas, n'anticipe pas, c'est ça ses principaux défauts. Hein.
On attend un nouveau vaccin, celui d'AstraZeneca. L'Europe va bientôt l'autoriser. L'Europe a bien géré la commande, selon vous ?
Oui, je pense que l'Europe a agi avec cette mutualisation.
Mais regardez Israël, ils ont plus de doses
non,
que
nous.
Non,
mais ça, c'est ridicule. L'Europe a jouer collectivement ensemble pour pouvoir... Là, on a 1,4 milliard de vaccins. Entre les commandes et les précommandes, on assure la vaccination de l'ensemble des citoyens européens, plus de 430 millions de citoyens européens. Et on sait très bien que si on veut enrayer définitivement ce vaccin à terme, et ça ne sera pas en 2021, je vous le dis, il faut vacciner dans l'ensemble des pays. Et donc, nous avons nos doses de vaccins. Mais c'est le gouvernement qui patine. C'est sa stratégie vaccinale qui est mauvaise.
Est-ce que vous êtes favorable, Nadine Morano, à un certificat de vaccination européen, c'est le premier ministre grec qui a demandé à l'Union européenne de mettre en place ce certificat pour pouvoir voyager au sein de l'Union européenne et défendre évidemment l'industrie du tourisme.
Je pense que le tourisme pâtit beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui, on le voit en France, mais vous savez, le certificat, il existe déjà quand on vous demande à l'entrée d'un pays un test PCR. Mmh. Donc, vous l'avez par définition, vous avez l'obligation de démontrer que vous n'êtes pas contaminant. Donc, je pense que ça, pour l'instant, il faudra le laisser. Ça, c'est une certitude.
Le gouvernement a raison de faire appel à des plateformes privées comme Doctolib pour la prise de rendez-vous ?
Écoutez, moi, ce que je trouve étonnant, c'est que alors que les doses sont arrivées en France, on en est seulement là, maintenant, aujourd'hui, à se demander, alors que depuis le mois de juin, on sait que ces vaccins vont arriver, que maintenant, au mois de janvier, on se demande comment on va prendre les rendez-vous. Ça aurait dû être fait bien avant, sur la base du fichier de la Sécurité sociale dont dispose le gouvernement, organiser cette stratégie vaccinale chez les médecins généralistes, dans des centres pour pouvoir vacciner, dans des vaccinodromes. Enfin, on avait différentes méthodes pour vacciner, mais le gouvernement a pris beaucoup de retard. Encore
vous
une fois, c'est son défaut.
Vous allez vous faire vacciner quand,
quand ce sera le moment, oui. Je me ferai vacciner parce que moi, je suis favorable à la vaccination. Je pense que les vaccins nous permettent de nous protéger nous-mêmes, mais permettent de protéger aussi les autres. C'est important.
Nadine Morano, ils sont moins atteints par le Covid, mais beaucoup en payent durement les conséquences. Les jeunes décrochent, isolés, démoralisés. Vous êtes la mère d'une jeune fille en fin d'études, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle vous dit?
Elle m'a alertée. Elle a d'ailleurs eu beaucoup de mal à trouver un stage. Elle s'est débrouillée à envoyer beaucoup de mails. Elle a réussi à en trouver un difficilement. Elle me dit, j'espère que tu réponds aux demandes de stage qu'on te fait, toi, parce que c'est vraiment désespérant de ne pas avoir de réponse des entreprises. Donc moi, j'ai mis un point d'honneur, pour le coup, à avoir plus de stagiaires qu'avant. Je réponds à ceux
au Parlement européen ?
Ah oui. Parce que je pense que c'est important de permettre aux étudiants et toutes les entreprises qui nous écoutent, qui peuvent prendre des jeunes en stage, il faut le faire. Moi, j'ai vu parmi les jeunes, j'en rencontre souvent, des jeunes qui ont une forme de désespoir parce que certains n'ont pas trouvé de stage et ne peuvent pas travailler non plus. Ils restent chez eux et ils ne voient pas d'horizon, quoi. Et après, on s'étonne que les jeunes dépriment.
Les entreprises ne font pas ce qu'il faut, vous pensez ?
Mais vous savez, les entreprises, elles ont aussi des difficultés. Il faut se mettre à leur place. Vous avez beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à travailler. Regardez tous ces jeunes étudiants qui avaient des petits boulots pour financer leurs études, qui ne peuvent même plus aller travailler. C'est pour ça que je dis au gouvernement, franchement, regardez ce qu'il faut cibler. C'est-à-dire les personnes qui sont susceptibles de se retrouver à l'hôpital pour désaturer nos hôpitaux et arrêter de gouverner par la peur. Faites un peu confiance. On est chacun responsable. On sait qu'on peut transmettre le virus. On doit protéger nos personnes âgées, les personnes vulnérables. Et on doit donner un avenir à nos jeunes et un avenir aussi à tout le monde. Laissez-nous vivre un peu.
Merci beaucoup Nadine Morano.
Merci.
Ils ont été en retard sur tout, ils le sont aussi sur la vaccination. Et pourtant, l'équipe au pouvoir gouverne par la peur. Avec Nicolas Sarkozy, nous avons quitté le pouvoir en laissant 1 milliard 400 millions de masques en place. Merci infiniment l'une et l'autre pour cet entretien qu'on retrouve sur le site rtl.fr. Dans un instant, Cyprien Sini surfe avec les vœux de nos élus.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
7h57, Cyprien, vous surfez donc avec les cérémonies de vœux très originales de nos élus, plus précisément de nos maires.
Oui, cette saison. Alors évidemment, il y a les vœux des poids lourds de la politique, des maires de grandes villes, genre Anne Hidalgo à Paris, qui cette année a commencé par dire...
Je sais à quel point ces derniers mois ont été difficiles.
Tu m'étonnes. Bon, on peut pas lui donner tort. Mais l'an dernier, au moment de passer en 2020, elle disait quoi déjà ?
Je sais aussi combien ces dernières semaines ont été éprouvantes pour vous.
On sortait déjà d'une année pourrie, dites donc. Merci. Et pour les vœux de 2019, ça commençait comment, juste pour voir là.
Oui. Je sais que l'année 2018 n'a pas toujours été facile pour vous.
Non, c'est pas possible.
Oui, ami qui a la chance de ne pas vivre à Paris, sache qu'à Paris, on sort toujours d'une année pourrie pour attaquer une encore pire, en fait. Mais assez parlé de ceux qui ont les moyens, parlons plutôt des petites communes au budget plus serré, où cette année, les maires ont dû rivaliser d'ingéniosité, comme lui sur son camion.
Solo à fond. Bonne année. Micro à
allez, on avance. Parcours les rues de Roche-la-Molière dans la Loire.
Formidable.
Bonne année, compagnie créole à tout va, à tous ses administrés, c'est formidable, qu'est-ce qu'ils vous disent. Mais alors, encore plus improbable, les Côtes d'Armor. Oui, Erquy, 4000 habitants, et dans une vidéo, monsieur le maire, donc.
Mes chers Réginéennes et Réginéens, je vous souhaite une très bonne année 2021.
Alors, il démarre classique, mais très vite, ça va se gâter.
Beaucoup de stars rêveraient d'habiter chez nous.
Des stars ? Oh, à Erquy ! Et là, apparaît une imitation, comment dire... une imitation, quoi, de Geneviève de Fontenay.
Moi, je suis d'accord avec Henri, je rêverais d'habiter à Erquy, parce que c'est bien connu, et Erquy, il n'y a que des belles sirènes, comme moi.
Une presque Geneviève de Fontenay, suivie par un presque Jamel Debbouze, et alors... Dans les Côtes d'Armor, ils ont dû se passer le mot, puisque juste un peu plus loin, à Pordic, 7000 habitants, le maire, Joël Bâtard, c'est son nom, l'a joué Actor Studio.
Loïc, comment on s'organise pour les vœux cette année, là, compte tenu de la crise sanitaire là, qu'est-ce qu'on peut...
Et si on faisait une vidéo ?
Tiens, j'ai le téléphone qui sonne, moi.
Tiens, mais qui ça peut bien être ?
Bah, c'est la reine d'Angleterre.
Hello, Joël et Loïc ! Comment allez-vous ? Transmettez mes bons voeux à tous vos sujets.
Oui, l'imitation de la reine d'Angleterre.
Ah, c'est mon portable qui sonne maintenant.
Encore ?
J'ai appris que vous aviez mis en place une bonne tactique avec le monde associatif. Transmettez mes bons voeux de bonne année à tout le monde.
Mais ça serait pas Didier Deschamps, ça ? Alors évidemment, on en sourit, mais on ne peut que saluer l'intention de tous ces maires qui se décarcassent au quotidien. Et puis pour 2021, on a envie de leur dire comme l'immense Pierre Richard.
L'année dernière, à la même époque, je vous avais envoyé tous mes voeux. Et devant le résultat, tout ce que je peux vous dire au fond, au mieux,
Merci. Bonne chance. Oui,
c'est bien, ça, bonne chance. Hein, on va en avoir besoin.
Cyprien Signy, RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, ces premières données rassurantes sur l'efficacité du vaccin.
Données en provenance d'Israël. Nous serons sur place dès le début de ce journal. La nuit s'est terminée dans un gymnase pour des centaines d'automobilistes coincés à cause de la neige en Haute-Savoie et dans l'Ain. Et puis le parrain au tribunal. L'un des plus grands procès de l'histoire de la mafia en Italie. Il commence aujourd'hui. 350 accusés à la barre.
RTL Matin.
Se faire vacciner protège-t-il aussi les autres du coronavirus? C'est la grande question de ces derniers mois. Eh bien, on a peut-être un début de réponse ce matin en regardant ce qui se passe en Israël, qui a commencé à vacciner très tôt et très massivement sa population. Stéphane Amar, vous êtes à Jérusalem pour RTL. Et cette réponse est oui, d'après les autorités sur place. Vous avez des chiffres?
Oui, ce sont des chiffres plutôt encourageants qui ont été communiqués hier soir par deux des principales caisses d'assurance maladie du pays. Deux études qui portent chacune sur 400 000 personnes qui ont reçu le vaccin Pfizer. Eh bien, elles montrent que 14 jours après la première injection, le taux d'infection chute de 33% selon l'une des études, de 60% pour l'autre. Cela voudrait dire que non seulement ces personnes ne vont pas développer la maladie, mais qu'elles ne vont pas non plus transmettre le virus à d'autres. Ce sont les premières études à cette échelle au niveau mondial, car comme vous le disiez, Israël vaccine massivement sa population. Un petit bémol cependant, 17% des personnes hospitalisées à cause de la Covid ces derniers jours avaient bien reçu la première injection du vaccin. Le rappel, qui doit s'effectuer un mois après, serait donc bien indispensable pour assurer l'immunité.
L'explication de Stéphane Amar en Israël pour RTL. En France, les plus de 75 ans hors EHPAD pourront commencer à s'inscrire demain pour se faire vacciner à partir de lundi. Va-t-on vers une généralisation du couvre-feu à 18h? C'est l'hypothèse privilégiée, vous le savez. Nouveau conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée, autour d'un Emmanuel Macron visiblement très remonté face aux critiques de l'opposition, William Galibert.
Oui, faute de cogneurs suffisants au sein de son propre gouvernement, c'est Emmanuel Macron qui choisit d'enfiler les gants et les uppercuts visent l'opposition en plein menton. D'abord, sur le ton de l'ironie, ceux qui disent que ça ne va pas assez vite aujourd'hui sont ceux qui disent qu'on allait trop vite en décembre, lâche le président. Puis il dénonce le discours de facilité de ses adversaires. Il y a un fonds de commerce qui est « critiquons l'État » ou « critiquons l'autre », enchaîne Emmanuel Macron, qui s'attribue lui-même les bons points. Nous, nous sommes responsables, mais ça prend un peu plus de temps qu'un tweet. Enfin, dernier round, comme une réponse aux élus locaux, Anne Hidalgo en premier lieu. Pour le président, je cite, « ça n'a pas de sens de mobiliser les maires dans cette première phase de vaccination, phase qui concerne essentiellement les soignants et les personnes âgées » et qui doit atteindre le million de piqûres d'ici la fin du mois.
William Galibert. Aux États-Unis, on a franchi un nouveau record de décès en 24 heures. Près de 4500 morts liés au Covid. Le pays n'avait jamais dépassé jusqu'alors la barre des 4000. Les États-Unis vont bientôt exiger des tests PCR négatifs pour tous les voyageurs arrivant en avion. Les États-Unis qui viennent d'exécuter pour la première fois en 70 ans une femme dans l'Indiana. Ses avocats avaient espéré jusqu'au bout un geste de clémence de Donald Trump. Lisa Montgomery, 52 ans, avait été condamnée pour le meurtre d'une femme en 2004. Elle lui avait volé son fœtus.
RTL, il est 8h03. Près de 2000 automobilistes bloqués sur l'autoroute A40 dans l'Ain et en Haute-Savoie à cause de la neige.
Ils se souviendront longtemps de cette nuit du 13 janvier. Tout est parti d'un accident de poids lourd hier après-midi à hauteur du viaduc de Bellegarde. Ça a ralenti puis complètement paralysé le trafic lorsque la neige s'est mise à tomber dru. Certains conducteurs ont passé plus de 10 heures dans leur voiture. La route a finalement été dégagée au petit matin. Vous êtes sur place, Raphaël Vantard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Bellegarde exactement, où les automobilistes ont fini la nuit donc dans un gymnase.
Oui, des salariés du bâtiment, encore en tenue, des travailleurs frontaliers ou des familles. Près de 60 automobilistes se réveillent ce matin dans ce gymnase de Bellegarde-sur-Valserine, tous coincés pendant de longues heures sur cette autoroute A40. C'est le cas d'Ilette. Elle revenait hier soir de son travail et elle s'est retrouvée comme les autres voitures, prisonnière d'une neige lourde, 5 à 10 cm par heure sur la chaussée.
J'y suis restée, c'était 4 heures environ, jusqu'à 4h30 quand je suis arrivée ici.
12 heures dans votre voiture ?
Oui, dans ma voiture, sans aucune info, sans rien, toute seule, avec ma radio, de temps en temps avec des infos, mais bon, quand on était bloqué, la part était neigée, on voyait bien que ça montait, la neige montait, hein. Une grosse galère.
Depuis, très vite, face à près de 2000 véhicules immobilisés, Benjamin Vubert, adjoint au maire de la commune, ouvre un gymnase chauffé pour accueillir tout le monde.
Les pompiers ont mis à disposition des sacs de couchage et un kit de première nécessité pour pouvoir s'allonger à peu près confortablement. La commune a fait l'accueil café pour essayer d'accueillir au mieux nos invités inattendus.
Depuis quelques minutes, les secours multiplient les navettes pour accompagner un à un ces automobilistes à leur voiture, souvent restés sur des parkings ou sur le bord de la chaussée. L'autoroute A40 est-elle rouverte, mais des dizaines de poids lourds restent pour le moment stockés sur la voie de droite.
Merci Raphaël Vantard en direct de Bellegarde pour RTL. Très léger mieux sur le front de l'économie en décembre. En France, l'activité ramenée à moins 7% contre moins 11% en novembre, d'après les chiffres de la Banque de France communiqués ce matin. La Banque de France qui ne voit pas d'amélioration pour le mois de janvier.
Dans un instant, menace d'écran noir sur le football français. Restez avec nous.
RTL Matin.
RTL Matin.
8h07, la suite du journal de Jérôme Florin. Nouveau coup de théâtre dans le feuilleton des droits TV du football. Hein.
Canal+, qui était pressenti pour récupérer les droits depuis le retrait de Mediapro, vient de jeter un froid en demandant un nouvel appel d'offres. La Ligue 1 a perdu beaucoup de valeur, argumente le patron du groupe Canal, Maxime Sada, ce matin dans les colonnes du Figaro. Christian Olivier, la pression sur la Ligue de football professionnelle n'a jamais été aussi forte. Hein.
Oui, personne n'a vu le coup venir et il est brutal. Le 5 février prochain, Canal aura réglé la moitié des 330 millions après cette première partie de saison pour ses deux principales affiches du samedi et du dimanche. Et Mediapro aura normalement disparu à moins de jouer gratuitement les prolongations. La chaîne cryptée réclamera alors un nouvel appel d'offres dont la procédure, même accélérée, peut durer 3 mois. La négociation de gré à gré, comme à la belle époque, est interdite par le code du sport. Conséquence possible, écran noir jusqu'à la fin de la saison et certitude garantie de caisse vide pour les clubs dont certains tirent jusqu'à 70% de leurs revenus grâce à la Providence Télé. Scénario catastrophe pour Vincent Chaudel, fondateur de l'Observateur du sport business.
Maintenant, on a une incertitude sur le reste de la deuxième partie de saison. On a toujours des huis clos et le mercato ne va pas être dans un bon mercato pour le football français. On a un vrai risque de dépôt de bilan pour certains clubs.
Le groupe Canal, actionnaire Vivendi, propriété du milliardaire Bolloré, a les cartes en main pour ramasser la mise devant un football français à ses genoux.
Christian Olivier, un football qui continue malgré tout sa route. Le trophée des champions ce soir opposera le PSG à l'OM. Ce sera Lens, coup d'envoi 21h.
Et pour se rendre dans la région, on pourra bientôt prendre le TER et plus seulement le TGV.
Oui, le TER entre Paris et Lille. Mmh. La ligne sera ouverte samedi, ou plutôt réouverte. Hein. Oui. C'est une initiative de la région Hauts-de-France avec la SNCF. Plus long, certes, mais bien moins cher, Arnaud Touche.
Oui, ce TER fera 2 allers-retours par jour, les samedis, dimanches et les jours fériés. Ce type de trajet en train express régional n'existait plus entre Lille et Paris, comme le détaille Franck Dersin, le vice-président transport de la région Hauts-de-France.
Ça existait dans les années 90 et puis l'essor du TGV a fait que tout ça a été supprimé. On relance effectivement ce Lille-Paris, ce Paris-Lille via Douai, Longo-Amiens, Creil, pour desservir aussi quelques grands bassins d'agglomération de notre région.
Le TER va moins vite qu'un train à grande vitesse, comptait 2h10 en moyenne au lieu d'une heure en TGV. Mais là n'est pas l'essentiel pour Franck Dersin.
La cible, si vous voulez, c'est l'étudiant qui va en études à Paris ou à Lille, ou à Douai, ou à Amiens. Et c'est aussi la famille qui veut aller passer un week-end à Paris, ou un week-end à Lille, ou un week-end à Amiens. Et vraiment, ça lui coûtera 3 à 4 fois moins cher qu'un voyage en TGV.
Comptez 20 euros l'aller-retour, 2 euros pour les enfants. Et grâce à cette nouvelle ligne, la région Hauts-de-France compte bien attirer des touristes franciliens dans les départements nordistes.
Arnaud Touche, vers une nouvelle crise politique en Italie. Le gouvernement a adopté tôt ce matin son plan de relance de plus de 200 milliards d'euros pour faire face à la crise, mais la coalition au pouvoir risque d'imploser en raison d'un désaccord sur l'utilisation des fonds européens. L'Italie qui se prépare à un procès hors norme de la plus puissante des mafias. Plus de 350 accusés et des suspects au surnom digne du parrain, Petite Chèvre, Le Loup, Petit Gros. Ça commence aujourd'hui en Calabre et ça va durer pas moins de 2 ans à venir.
Oui, c'est un procès absolument inédit contre la plus sanguinaire des mafias qui, selon les experts, réalise un chiffre d'affaires annuel de 50 milliards d'euros grâce au trafic de cocaïne dont elle a le monopole en Europe. 350 accusés et 900 témoins seront entendus dans une salle bunker de 3000 mètres carrés. Pour aboutir à ce maxi-procès, il a fallu plus de 4 ans d'enquête et surtout un magistrat hors du commun. Nicolas Gratteri, procureur du parquet de Catanzaro. Né dans le village de Gerace, au cœur de la Calabre, il vit sous escorte policière depuis 30 ans. Il a grandi avec des enfants de boss, devenus à leur tour des chefs mafieux. Ils fréquentaient la même école, jouaient ensemble au foot et assistaient souvent à des scènes de crime en pleine rue. Ce sont d'ailleurs tous ces corps criblés de balles qui ont fait naître en lui le désir de consacrer sa vie au combat contre la 'Ndrangheta.
Anne Lenir, pour ce procès, le deuxième plus grand procès de l'histoire en Italie, après celui de Palerme dans les années 80 contre la Cosa Nostra sicilienne qui avait abouti, il faut le rappeler, à l'assassinat des deux juges.
L'histoire du jour.
Au Québec, désormais sous couvre-feu, il n'y en avait pas eu là-bas depuis un siècle, certains plaisantins s'amusent à défier la police. Un couple a ainsi été verbalisé. Madame promener son ami en laisse. Elle a expliqué très sérieusement qu'on avait bien le droit de promener son chien. Elle a pris une amende et rétorqué bruyamment qu'elle recommencerait à chaque fois, quitte à accumuler les PV, qui peuvent aller là-bas jusqu'à 6 000 $ canadiens. C'est près de 4 000 €. Ça fait cher la balade.
Où est donc passé ce chien ? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien ? Il va me rendre fou.
J'ai bien compris, ce couple a une vie sentimentale dense. Enfin, vous nous le suggérez,
néanmoins. Une certaine vision de l'intimité.
Voilà. C'est ce que j'avais compris.
Qui n'est pas la vôtre.
Je ne le prononcerai pas. C'était le journal de Jérôme Florin. La météo, pardonnez-moi, Louis, voilà. Je suis désolé.
Bon, elle est aussi, pas aussi froide qu'au Canada, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle est encore très humide, très nuageuse, avec quelques pluies ici ou là. Bon, fini l'épisode neigeux là, qui a provoqué les blocages du côté de l'Ain ou encore sur la Savoie. En revanche, attention au risque d'avalanche en Savoie, mais également du côté du Jura. De la pluie donc dans la plupart des régions, en pleine en tout cas, de la neige à basse altitude également sur les Vosges, peut-être du côté des Ardennes. Et au milieu de ces passages nuageux très nombreux, quelques éclaircies près de l'Atlantique, faut le dire vite, mais surtout près de la Méditerranée, où là on aura du soleil parce que le Mistral et la Tramontane vont souffler fort. On attend des rafales jusqu'à 100 km/h. Les températures, encore quelques gelées ce matin dans l'Est et cet après-midi, pas plus de 3 à 6 degrés de la région Rhône-Alpes nord-est, ça reste froid, mais ailleurs 5 à 10 degrés au moins, jusqu'à 12 degrés parfois en Bretagne ou encore près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis Baudin.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
8h13, on regarde ce qui se passe du côté des fausses informations avec vous Jean-Mathieu Pernat, bonjour.
Oui, bonjour.
Aujourd'hui, la France est-elle au bord de la pénurie de seringues, comme l'affirment de nombreux messages sur les réseaux sociaux?
Eh bien oui, puisqu'après les lits d'hôpitaux, après les masques, après la farine, lors du confinement de printemps, la France va-t-elle manquer de seringues pour vacciner sa population? C'est sûr, sans seringues, on va droit dans le mur. Si on n'a plus de seringues, la même aiguille servira à plusieurs personnes. Les politiques organisent la pénurie de seringues. Voilà quelques messages que nous qualifierons d'inquiet, glané ça et là sur les réseaux sociaux et craignant non plus le vaccin mais que l'on ne puisse plus l'administrer en raison d'absence de matériel d'injection. Alors en fait, tout part d'une angoisse de certains professionnels de santé relayée par le journal Libération le 8 janvier dernier. L'article dénonce les faiseurs d'intox sur le sujet de la pénurie de seringues, mais évoque tout de même des interrogations pour la suite. Un immuno-oncologiste de Strasbourg et membre du collectif du Côté de la Science explique: pour vacciner 55 millions de personnes, il faut 110 millions de seringues et d'aiguilles. Le gouvernement en a-t-il prévu assez? Au CHU de Nice, un médecin spécialisé en gériatrie s'étonne de la taille des aiguilles, mais non, il n'y a pas de pénurie, mais dans quelques mois, la question pourrait être un nouveau débat.
Bon, alors, que dit le ministère de la Santé sur le sujet?
Alors, interrogé hier lors d'une audition à l'Assemblée nationale, Olivier Véran, un brin courroucé par cette question, a répondu: il y a plus de 3 millions d'aiguilles en stock chez Santé publique France et 800 000 sont acheminées dans les hôpitaux. Nous avons 4,5 millions de seringues dans les stocks de Santé publique France et donc 650 000 seront acheminées cette semaine, puis à nouveau 2 millions la semaine prochaine. Et donc, Yves, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il existe 15 références d'aiguilles, bien sûr. Et 16 références d'aiguilles pour réaliser une intramusculaire avec les vaccins contre le Covid-19. Toutes seraient compatibles avec le traitement contre le Covid, explique encore le ministère de la Santé. Alors d'où vient cet intox? Eh bien tout simplement d'une inquiétude prégnante dans beaucoup de pays. Même rumeur en Allemagne avant Noël, actuellement en Belgique et au Brésil, où il y aurait véritablement une absence de seringues importante. Bref, c'est un effet de boule de neige garantie.
Néanmoins, la situation pourrait-elle devenir critique dans le futur?
Alors dans l'enquête du journal Libération, on lit les projections de la société de données indépendante Airfinity. Infinity. La production actuelle de seringues s'élève à 9,05 milliards d'unités par an et pourrait atteindre les 12,03 milliards en 2021. Souci, il n'y a pas que le Covid, mais par exemple, il y a la grippe aussi où on fait des vaccins. Ainsi, Airfinity évalue à plus de 17 milliards la quantité de seringues nécessaire pour couvrir les usages habituels ainsi que ceux qu'engendrera la vaccination contre le Covid-19. Vraiment difficile époque pour ceux qui ont peur des aiguilles. Oui. La passion seringue ne fait que commencer.
Merci beaucoup Jean-Mathieu Perma.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h16, le Premier ministre Jean Castex va donc recevoir vendredi les représentants de la communauté universitaire pour parler de la situation de nos étudiants. Il n'y a plus de cours dans les universités depuis le 30 octobre et les étudiants doivent travailler à distance, sans vie sociale. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Le week-end dernier, un étudiant de l'université Lyon 3 a tenté de se suicider en se défenestrant du 5e étage de sa résidence universitaire et nos confrères du Progrès rapportent une nouvelle tentative de défenestration la nuit dernière dans le 5e arrondissement de Lyon. Avec la brigade RTL, ce matin, on se penche sur cette détresse des étudiants, leur santé mentale dégradée par la crise sanitaire. Pardonnez-moi. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Le nombre de suicides a-t-il vraiment augmenté ?
Alors, il n'y a pas de chiffres pour le moment concernant le deuxième confinement qui finalement n'est pas terminé pour les étudiants puisqu'ils ne peuvent toujours pas aller à l'université. On dispose en revanche du bilan du premier confinement du printemps. État dépressif, troubles anxieux, idées suicidaires, 31% des étudiants ont présenté des signes de détresse psychologique au lieu de 20% une année universitaire ordinaire. Pour autant, le nombre de suicides a baissé. C'est un phénomène classique que les spécialistes observent. Quand le traumatisme psychologique est collectif, oui, comme le premier confinement, eh bien, le taux de suicide diminue. Il y a un effet solidarité, soutien mutuel, social, familial.
Pour le deuxième confinement, c'est la même chose ?
Non, l'amorosité ambiante est plus forte. L'esprit collectif s'effrite. Les parents vont au travail, les petits frères et sœurs vont à l'école. Mais ouais, les étudiants, eux, ils sont assignés à domicile, sans perspective d'avenir. Et les signes de démobilisation sont bien plus préoccupants. Les psys parlent d'inconfort psychologique. Et ça devient souffrance pour certains parce que la solitude, l'incertitude ajoutée parfois à la précarité réveille ou révèle d'autres traumas. Les demandes de consultation auprès des centres de santé universitaires ont bondi de 30%.
Alors le gouvernement a promis, Marie, d'augmenter le nombre de psychologues dans nos universités.
Oui, aujourd'hui il y a un psy pour 30 000 étudiants. Avant cette crise, il y avait 3-4 mois d'attente pour obtenir un rendez-vous dans un des bureaux d'aide psychologique universitaire qui propose des consultations gratuites. Oui. 75% des troubles psy émergent entre 16 et 24 ans. C'est un âge charnière. Avec des moyens alloués insuffisants, trop longtemps on a sous-estimé la vulnérabilité des étudiants, déplorent les médecins de la Fondation Santé des étudiants de France, qui parlaient déjà d'urgence en novembre 2019, donc avant la pandémie. Aujourd'hui, il faut vraiment changer de braquet, dit la psychiatre Dominique Monchablon. La grande majorité des étudiants a la capacité de rebond, de résilience pour sortir de la crise actuelle, mais il faut aider les autres et aller les chercher.
Alors, il y a désormais des étudiants référents dans les résidences universitaires pour veiller sur les autres.
Oui, 1400 référents qui viennent d'être recrutés, puis ça va continuer. Le plus souvent, des étudiants en 4e ou en 5e année. C'est un job rémunéré par les CROUS, les organismes qui administrent la vie étudiante sur les campus à travers toute la France. Ces référents sont là pour créer du lien, lutter contre l'isolement dans leurs cités universitaires. Ils font du porte-à-porte, organisent des animations. On contacte notamment des étudiants de première année pour les informer des aides dont ils peuvent bénéficier et les diriger, si besoin, vers les assistantes sociales ou les psychologues.
Merci beaucoup Marie Guerrier, spécialiste éducation d'RTL. Dans un instant, Michel Simaes avec qui nous faisons un point sur notre campagne de vaccination. 190 000 Français ont déjà reçu une première dose. A tout de suite avec Michel.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simaes.
8h20, bonjour cher Michel Simaes.
Bonjour Monsieur Calvi.
Les Français se posent bien sûr beaucoup de questions sur le vaccin. Nous allons essayer de répondre à certaines d'entre elles avec vous Michel. Mais d'abord, sentez-vous qu'il y a moins de scepticisme qu'il y a quelques semaines ? C'est évident, non ?
Oui, absolument. Les chiffres entendus ici ou là semblent aller dans la bonne direction. Les prochains seront publiés dans quelques jours par Santé publique France. Mais il y a aussi, et c'est souvent un bon critère, ce que nous entendons, nous, médecins, dans les conversations que nous pouvons avoir avec nos patients ou nos amis. Mm-hmm. Il y a seulement quelques semaines, il me fallait argumenter auprès de ceux qui me disaient qu'ils n'étaient pas convaincus et même qu'ils n'allaient pas se faire vacciner. Toujours les mêmes doutes, pourquoi est-ce allé si vite, on n'a pas assez de recul, etc. Aujourd'hui, on me demande surtout si je n'ai pas un moyen de les faire vacciner vite. Et bien sûr, je n'en ai pas.
Bon, alors à quoi est due cette remontée de ceux qui veulent se faire vacciner, selon vous ?
Alors, à plusieurs choses. Il y a le recul et l'absence d'effets secondaires sur les millions de personnes déjà vaccinées. Et puis, il y a l'exemplarité. Vous savez que je me suis fait vacciner il y a une semaine. J'espère que les auditeurs d'RTL qui me font confiance ont été rassurés de voir que je n'avais pas eu d'effets secondaires. Mais il n'y a pas que moi, bien sûr. Axel Kahn, René Friedman, l'appel des célébrités et surtout la vaccination de leurs médecins traitants.
Ah oui.
Tout ça a joué et les gens se disent probablement que quand ce sera leur tour, bah, il faudra y aller. Et puis j'ai l'impression que les arguments irrationnels des anti-vaccins ne passent plus ou du moins plus aussi bien qu'avant. Quand on crie aux cobayes, aux risques d'accidents graves, aux puces qu'on vous injecterait dans le corps pour vous surveiller et que vous voyez que finalement il ne se passe rien, bah vous finissez par douter de ce qu'on essaye de vous faire avaler.
Autre question, le vaccin protège-t-il contre le variant anglais ?
Oui, on en a beaucoup parlé, apparemment oui, et pas seulement parce que Pfizer ou Moderna le disent. D'après les experts, les anticorps que l'on fabrique grâce à la vaccination empêchent toujours le virus d'entrer dans les cellules, car ils attaquent les fameuses spicules à la surface du virus et que les mutations n'ont pas entraîné de grandes modifications de ce côté-là, en tout cas pas suffisantes pour empêcher le vaccin d'être efficace.
Que sait-on de la durée de la protection avec ce vaccin ?
Eh bien, d'après les dernières données que l'on a, les personnes qui ont fait le Covid ont des anticorps protecteurs encore 8 mois après l'infection. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on parlait de 3 ou 4
oui.
mois seulement. C'est donc une bonne nouvelle, même si cela dépend de beaucoup de choses, hein, notamment si on a fait des symptômes, l'état de son système immunitaire, la charge virale, etc. Il y a peu de chances pour qu'on fasse moins bien avec la vaccination, dont le principe, je le rappelle, est de booster le système immunitaire encore plus efficacement qu'avec la maladie.
Bon, question qui nous fait sourire. Dernière question. On doit dire le ou la Covid ?
Moi, je dis le.
Oui,
comme vous voulez. Vous, je sais pas, vous, voilà.
Officiellement, en fait, c'est là, non ?
Oui, alors, vous savez pourquoi l'Académie française, dans sa grande sagesse, a recommandé le féminin ? Eh bien, c'est parce que Covid, c'est co pour corona, vie pour virus et le D pour disease. Et que disease, en anglais, bah, ça veut dire maladie et que maladie, forcément, c'est féminin. Mais que ce soit le ou là, on parle de la même chose. Et sachez qu'en partenariat avec Dr Good, vous pouvez écouter des podcasts sur le site rtl.fr et voir des vidéos sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook Dr Good. Des podcasts et des vidéos intitulées Parlons vaccin, où je réponds régulièrement aux questions que vous vous posez sur cette vaccination.
Et ce soir sur RTL, le vaccin, la stratégie vaccinale, émission spéciale animée par Thomas Soto avec ses invités. Vous pourrez bien entendu les interroger, notamment au standard d'RTL. Du conseil scientifique, nous serons avec le professeur Pierre-Louis Druet, qui est membre du conseil scientifique et de la Haute Autorité de Santé. Il est médecin généraliste.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Yves Calvi.
RTL Matin.
Il est 8h25. Bonjour professeur Pierre-Louis Druet.
Bonjour.
Vous êtes membre du Conseil scientifique et de la Haute Autorité de Santé. Je précise que vous êtes également médecin généraliste. Le président de la République convoque aujourd'hui un nouveau Conseil de défense sanitaire pour évoquer la situation du pays avec probablement de nouvelles mesures pour contenir la propagation du virus en France. Est-ce que d'abord, vous pourriez faire un point global sur la situation du pays aujourd'hui, 13 janvier 2021 ? Est-ce que nous sommes, oui ou non, dans une dynamique de hausse ?
La réponse est oui.
Oui.
Clairement oui, et il y a énormément de signes qui nous autorisent à être inquiets.
Lesquels ?
Inquiets. D'une part, on a une courbe qui stagne, qui a même une certaine tendance à monter de façon régulière.
C'est ce fameux plateau dont on a parlé ?
C'est ce fameux plateau avec quelques oscillations.
Ouais.
Et on sait que ces oscillations peuvent être prémonitoires d'une augmentation brutale de la courbe. C'est ce qu'on appelle une asymptote, et on l'a déjà vécu au mois de mars, et lors de la deuxième vague. Et ce qu'on veut éviter, c'est des situations tendues dans l'hospitalisation
oui.
et dans les services de réanimation.
Et avons-nous d'ores et déjà des chiffres de contamination pour les fêtes de fin d'année ?
Alors, je pense qu'on peut dire que les Français se sont bien comportés et que peut-être il y a un petit mouvement de la courbe, mais finalement, nous étions plus inquiets du risque de ces réunions. Et je pense que je peux en attester parce que beaucoup de nos patients, de nos familles, nous interrogeaient sur oui. les bonnes pratiques.
J'ai envie de vous dire, c'est contre-intuitif parce qu'on avait l'impression justement qu'en l'occurrence, on allait prendre des risques. Ensuite, on nous a dit, Noël, ça s'est bien passé. Vous avez déjà les conséquences possibles du réveillon
non,
du 31
tout.
Décembre ?
Non, pas encore.
Bon, on peut avoir de mauvaises surprises à ce moment-là ?
J'ai le sentiment
est-ce
que...
Je vous le dis autrement. Est-ce qu'on peut avoir été bon à Noël et moins bon pour la Saint-Sylvestre ?
Oui, bien sûr, on peut avoir été moins bon dans la mesure où je pense qu'à Noël, on a eu beaucoup le souci de nos aînés et des personnes à risque dans les familles. Donc, et puis les réunions étaient peut-être plus confidentielles, je dirais, par rapport au jour de l'an, où il est bien normal, on rencontre aussi des amis, des copains, et que dans cette conjoncture où l'amorosité nous empare tous, oui. Ça fait du bien, quoi.
Vous y pensez ? C'est-à-dire que vous intégrez au sein même du conseil scientifique, je dirais, aux besoins de respiration des Français, parce qu'on vous perçoit, je dirais, voilà, comme le conseil qui doit nous interdire un certain nombre de choses. Non, c'est plus large que ça ?
Non, on est tous conscients de ça, et c'est pas que des paroles. C'est-à-dire que toutes les débats qu'on peut avoir sont aussi autour de cet équilibre entre les nécessités, le possible et le souhaitable, je dirais. Ouais.
Alors, ce qui inquiète particulièrement, c'est l'apparition de ces variants du virus qui décuplent son pouvoir contaminant. Ces variants seraient présents dans 1% des tests effectués sur des Français positifs au coronavirus, 1% pour le moment, mais certains territoires sont particulièrement touchés, notamment la ville de Marseille. Est-ce que vous avez des données récentes sur la situation dans la ville ?
Non, les données qu'on a, c'est ce fameux 1% qui est sorti hier, ouais. Et qui est inquiétant. Par nature, parce que 1% de l'ensemble des contaminations, c'est pas négligeable, et ça peut laisser à penser, on n'empêchera pas ces virus et ces variants de pénétrer sur le territoire. Ce qu'il faut qu'on obtienne, c'est de gagner une course entre le virus, oui. Et les armes que nous avons à disposition, c'est-à-dire le vaccin. Parce qu'aujourd'hui, on a le vaccin. Et il faut qu'on puisse mettre en œuvre un certain nombre de procédures, et on connaît déjà les mesures barrières. Il faut ajouter à cela le vaccin, et avec tous ces éléments qui sont des véritables réponses collectives et individuelles, on doit pouvoir freiner une expansion du virus, mais on ne l'évitera pas.
Donc les fameux variants, qu'ils soient sud-africains, anglais, etc., sont d'ores et déjà dans le pays, et vous nous dites, on doit les combattre, et pour cela, on n'a que deux armes. Les mesures traditionnelles de protection, et en plus la vaccination. Mais ça veut dire quoi ? Vous nous dites, il faut accélérer la vaccination dans le pays ?
Bah, il faut la développer, c'est une course, c'est la course entre virus et vaccin. Il faut que le vaccin gagne sur le virus. Alors le vaccin va gagner sur le virus parce qu'on a d'une part sur le variant anglais une information importante, c'est que le vaccin BioNTech-Pfizer a une efficacité, oui. Dans la prévention. On espère que Moderna aussi, et puis on espère que les vaccins qui vont arriver ensuite dans les semaines à venir vont permettre d'augmenter le gradient de vaccination. Il faut savoir deux choses, c'est que toute la logistique et tout l'environnement de précaution qu'il faut avoir autour de vaccins a évidemment été un handicap pour pouvoir vacciner comme on le fait pour la grippe. Oui. Parce que je vous rappelle qu'on a vacciné quasiment 5 millions de personnes en 15 jours pour la grippe. Donc c'est possible.
Les médecins libéraux auront un rôle à jouer dans cette période de vaccination?
Bah, ils ont un rôle à jouer, déjà. C'est-à-dire que ma pratique de médecin généraliste, oui. Me permet de dire que depuis plus d'un mois, il n'y a pas une consultation où on ne nous interroge pas sur l'éligibilité au vaccin, oui. Quel vaccin, les risques, les précautions à prendre, et puis lutter contre l'évitation vaccinale. Et c'est notre rôle. C'est notre rôle de donner une information authentique. Et moi, je pense qu'il faut avoir cette clarté de dire ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Parce que c'est avec ça qu'un patient, qu'une personne peut prendre des décisions.
Le conseil scientifique sait-il quand vous pourrez, quand nos médecins généralistes et quand le pays pourra vacciner, on va dire, massivement ?
Clairement, je pense que ce sera avec les vaccins qui vont nécessiter une précaution identique à celle qu'on utilise pour le vaccin de la grippe. C'est-à-dire l'arrivée, on l'espère, des vaccins AstraZeneca. Oui. CureVac éventuellement et Johnson & Johnson. Donc on les attend.
Donc la seconde série qu'on attend, dont celle qui est déjà en cours d'observation par l'Europe. Hein.
C'est ça. Alors l'Europe observe le vaccin AstraZeneca. Ouais. Les deux autres ne sont pas encore déposés. C'est ces délais-là qui conditionnent. Mais il n'empêche que nous avons quand même toujours à jouer un rôle sur, déjà dans les EHPAD. Moi, je voudrais revenir sur le fait qu'il est très important de comprendre que dans une stratégie thérapeutique, quelle qu'elle soit, il y a un élément qui guide le médecin et qui guide la décision qui est partagée avec le patient, oui. C'est le rapport bénéfice-risque du vaccin. Et on sait que le rapport bénéfice-risque, il est optimum, capable d'être très performant chez les personnes à risque, les personnes âgées de plus de 75 ans. Et c'est pour ça qu'il y a eu une espèce de logique, si vous voulez, d'une priorisation des vaccinations pour les personnes dans les EHPAD, dans les établissements hospitaliers, et pour les personnes de plus de 75 ans. Et aujourd'hui, on commence déjà le travail d'information des patients de plus de 75 ans, d'autoriser la vaccination et de les encourager à aller dans les centres.
Une toute dernière question, un oui ou un non, je vous laisse choisir. Nos voisins reconfinent, pensez-vous que la France doit réfléchir à un possible reconfinement ?
Il faut réfléchir à toutes les mesures nécessaires, mais avant de penser au confinement, dont on sait que c'est quand même une situation ultime, il y a des alternatives que le Conseil scientifique a proposées.
On est entré dans la course entre les variants et le vaccin, nous avez-vous dit. Merci beaucoup, Pierre Louis Drouet, d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil scientifique et par ailleurs, vous-même, médecin généraliste. Et puis ce soir, sur RTL, une émission spéciale vaccin avec Thomas Soto dans RTL Soir, à partir de 19h15 avec nos invités, notre brigade de l'actualité et nos spécialistes qui répondront à toutes vos questions. Louis Bodin est avec nous dans un instant pour la météo à 7 jours.
RTL Matin.
Bonjour, c'est Steven Bellery.
Laissez-vous tenter.
4 ans après Jump on Board, Texas prépare son 10e album attendu au printemps. La chanteuse Charlene Spiteri se confie ce matin sur le retour de son groupe, leur toute nouvelle chanson High et leur album créé en plein confinement à distance. A tout à l'heure, 9h dans Laissez-vous tenter.
RTL, toujours avec vous. We got
high. RTL Matin.
Oui, bon, c'est l'heure de notre météo à 7 jours, puisqu'il est 8h35.
Oui, et avec encore beaucoup, beaucoup de soucis pour ces prochains jours, parce que d'abord la prévision n'est pas fiable, et puis qu'ensuite la neige rôde n'est pas très loin. Alors, on l'a vu, elle est tombée abondamment au cours de la nuit sur les régions de l'Est, avec toujours un fort risque d'avalanche. Attention, dans les Alpes, dans le Jura, des conditions difficiles. Ça reste hivernal avec cette neige qui va tenir jusqu'en pleine quasiment au cours de ces prochaines heures. Et surtout, demain, ça recommence. C'est-à-dire que demain, normalement, il va neiger une bonne partie de la journée jusqu'en pleine, des Ardennes, Lorraine, sur l'Alsace, une partie de la Franche-Comté, peut-être également sur la Bourgogne du côté du Morvan. Vous voyez, dans toutes ces régions, on va avoir de la neige tout au long de la journée, donc peut-être 5-10 cm pourrait s'accumuler ou être juste à la limite. En tout cas, situation à surveiller. Dans les autres régions, encore beaucoup de nuages avec quelques pluies cette fois-ci en pleine. Et puis quand même, du soleil près de la Méditerranée avec toujours du Mistral et de la Tramontane. Demain, les températures hivernales encore dans l'Est, mais ailleurs, on sera autour de 8 à 10 degrés, donc plutôt un peu au-dessus des normales de saison. Ensuite, on va avoir une accalmie normalement entre vendredi et samedi avec un petit peu moins d'averses, quelques flocons quand même dans l'Est. Et puis peut-être dans la nuit de samedi à dimanche ou encore dimanche, arriver des nouvelles perturbations alors qui nous donnent des sueurs froides.
Ça
parce
vous fait
que,
rire, oui.
Un coup, elles nous apportent de la neige. Alors peut-être de la neige jusqu'en pleine, en Ile-de-France, en Normandie, dans toute la moitié nord. Et puis dans d'autres, ce qu'on appelle des runs, c'est-à-dire d'autres simulations, plus rien. Bah. Donc vous voyez qu'au-delà de samedi, ben, je m'arrête et puis on va surveiller cette situation qui de toute façon reste hivernale, c'est-à-dire qu'il y a encore des perturbations et de la relativité.
Enfin, en tout cas, vous qui êtes souvent si précis, ce qui est clair, c'est que vous nous dites qu'avec la neige, il y a toujours un peu plus d'interrogations.
Ce que je répète, hein, au-delà de 48 heures, il y a beaucoup d'interrogations, donc c'est encore le cas en ce moment.
Merci beaucoup Louis Bonnat. RTL, il est 8h37.
RTL, vous êtes comme ça.
Prenons donc ce matin la direction du département de la Manche, où après avoir cherché un repreneur pendant plus de 7 ans, le pharmacien de Saint-Martin-de-Landelle a enfin trouvé son successeur. Il s'agit d'une jeune femme de 33 ans qui a quitté la vie parisienne pour venir s'installer durablement en Normandie. Bonjour Frédéric Veil.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
La succession s'est faite il y a quelques jours et pour les 1200 habitants de ce village normand, c'est un immense soulagement.
Effectivement, la petite pharmacie de Saint-Martin-de-Landelle vient de changer de main. Ouverte au début des années 50 dans une des vieilles maisons de pierre du village, elle était tenue depuis 43 ans par Claude Lepoultier, qui à 72 ans vient enfin de prendre sa retraite. Enfin, pas tout à fait, car le septuagénaire est toujours là, deux ou trois après-midi par semaine.
Oh, tant mieux, c'est ce qu'il faut. J'y reviens encore de temps en temps parce qu'il y a toujours des petites choses à régler, des problèmes administratifs à résoudre, etc. Donc voilà, c'est pour ça. Et puis ça me permet de m'en aller doucement, tranquillement, et pas brutalement. Si on a besoin de moi, je suis encore un petit peu là, mais ça s'arrête là.
La preuve, il ne répond même plus au téléphone. Il laisse cela à Émilie Plantard, la nouvelle propriétaire, qui prend peu à peu ses marques.
Monsieur Lepoultier est une personnalité à Saint-Martin-de-Landelle, donc c'est vrai qu'il va falloir assurer pour pouvoir prendre sa suite. Mais bon, je crois que ça va aller. Les gens sont très très sympathiques. Le contact passe très très bien. Et voilà, je suis totalement confiante pour la suite.
D'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, moi, je n'ai pas vendu, j'ai transmis. Et je préfère cette formule à une formule purement économique. Donc c'était la solution.
Ouais. Et cette solution, Frédéric, c'est une transaction qui constitue un cas unique chez les pharmaciens puisque l'officine a été cédée, je dis bien cédée, pour 1 euro symbolique.
Exactement. Au bout de 7 ans, Claude Lepoultier, désespéré de ne pas trouver de repreneur, a fait un beau pied de nez à sa profession car selon lui, depuis des années, il y a une surenchère sur la valeur des fonds de pharmacie, ce qui empêche la transaction. Mission. Là, c'est avec cette audacieuse solution qu'il a pu céder son officine à la jeune pharmacienne.
Il y a plusieurs choses en fait qui m'ont séduite. C'est vrai que pour moi, effectivement, c'est important de pouvoir aller chez son médecin ou à la pharmacie sans avoir à faire 10 km, puisque pour Saint-Martin-de-Landelle, c'est le cas. Si la pharmacie fermait, il fallait faire 10 km pour pouvoir aller chercher son ordonnance ou un médicament. Et puis, c'est vrai qu'il y avait l'offre symbolique à 1 euro. Moi, je suis jeune, c'est ma première installation, donc disons que je prends pas un gros risque, enfin j'ai pas une dette énorme à la banque. Et puis la troisième chose, c'est aussi que moi je me rapproche de la famille, des amis, donc voilà, c'est tout ça qui fait que j'ai été séduite par l'offre de monsieur Lepoultier. Mais c'est un changement de vie quand même, parce que bon bah du jour au lendemain on a déménagé, on a inscrit les filles à l'école ici, mais c'est certain, ma venue était très attendue. Là aujourd'hui je le vois au comptoir, les gens sont soulagés, mais tous les jours on me le dit, que c'est super, enfin la pharmacie est enfin reprise. Tout le monde à chaque fois me parle bien sûr de monsieur Lepoultier. Je crois que Saint-Martin-Landelle peut vraiment lui dire merci. C'est pour ça que c'est ce que je lui dis, il est chez lui ici, donc il revient quand il veut. D'ailleurs, il faut que vous gardiez un double des clés, hein, parce que comme ça vous finissez.
Non, j'y tiens pas forcément. Hein. Je vais m'en aller doucement.
Prenez
voilà.
Votre temps, parce qu'au contraire, vous voir la pharmacie, c'est super. Quoi. Donc, puis les gens sont contents de vous revoir en retraite cette fois-ci, donc dans un autre contexte.
Ouais. La pharmacie de Saint-Martin-de-Landelle cédée à 1 euro symbolique. C'est ce reportage signé Frédéric Veil qui est à retrouver sur le site rtl.fr.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h41 ce matin. On enfile nos chaussures de randonnée. Gros plan sur les vertus de la marche pour retrouver le chemin de la sagesse.
Oui, chaque année, l'association Seuil offre à une quarantaine de jeunes la possibilité d'une réinsertion à travers la marche. Des jeunes marginalisés qui ont eu des ennuis avec la justice. Ils ont entre 14 et 18 ans et ils acceptent de cheminer sur des centaines de kilomètres pendant 2 ou 3 mois, juste accompagnés d'un adulte. La revue Sphère a suivi Sam, 16 ans, et Nolwenn, son accompagnatrice. Pour ce pèlerinage laïque, il y a une règle, ni portable, ni musique. Tout est fait pour que le jeune marcheur reparte de zéro, en solitaire ou presque. Un choc pour Sam, elle vit en foyer depuis ses 13 ans. Et quand on lui demande ce qui l'amène là, elle hésite un peu à répondre. Je suis trop insolente. On veut me virer du foyer, donc on m'a envoyé ici pour me calmer. C'est son éducateur Maillot qui lui a proposé cette marche. Elle n'allait pas très bien, dit-il. Elle venait d'être exclue d'une formation. Il ne fallait pas qu'elle reste sans rien faire. Ce jour-là, Sam et Nolwenn ont fait 6 heures de marche sur la côte sud du Finistère, près de 25 km. Je pensais que ce serait comme une balade en forêt, dit Sam, mais pas du tout. J'ai beau m'être habitué au rythme, j'ai mal tout le temps. La marche, Nolwenn connaît ça. Il y a 9 ans, elle est partie seule durant un mois et demi sur les chemins de Compostelle. Et ça, Sam ne comprend pas. Mais quel intérêt de partir toute seule pour marcher? Si tu veux réfléchir, tu peux le faire dans ta chambre. Nolwenn explique doucement les belles rencontres, le défi physique. Peine perdue. Moi, je ne le referai jamais, dit l'ado. J'ai coché la case randonnée, c'est fait. Et je me fiche que les gens trouvent ça impressionnant. Nolwenn sourit, tu ne te rends pas compte de ce que tu réalises. Le pouvoir résilient de la marche, c'est le credo du fondateur de l'association Seuil, l'ancien journaliste Bernard Olivier. Ça fait 1000 ans qu'on met des gens en prison, dit-il. Les jeunes en centre éducatif fermé, ils récidivent à 75%. Et le prix de revient d'une journée, c'est pratiquement 700 euros. À Seuil, c'est la moitié et 95% de nos jeunes reviennent avec un projet. De fait, il y a peu d'abandon, 85% des marches vont à leur terme. Ah oui. C'est du travail social par un biais différent, explique Nolwenn. Ça ne dure que 2 mois, mais c'est peut-être plus marquant que de suivre un jeune en pointillé pendant 1 an. Pour que la marche fonctionne, c'est sûr, il faut un bon binôme et quelques concessions. Yves, Nolwenn a dû faire une croix sur son régime végétarien. Sam, qui aime soigner son look, apprend à se contenter du strict nécessaire et elle se lamente. Depuis le départ, je suis moche, je n'ai que des habits de rando et je ne me maquille pas. 1 heure par semaine, elle peut quand même utiliser un téléphone prêté par l'association. Elle en profite pour échanger avec son frère sur Snapchat, oui, et écouter du rap, bien sûr, à fond. Pendant la marche, en revanche, on entend généralement que le couinement des chaussures. La marche en silence amplifie les émotions, explique le directeur de Seuil. C'est aux jeunes de les transformer en force plutôt qu'en faiblesse. Ça n'a pas lâché prise, mais la marche, c'est comme le thé. On plonge le sachet et puis il faut patienter pour que tout ça infuse. En fait, quelque chose a déjà changé. Sam va plus vers les gens, dit Nolwenn. Son éducateur la trouve apaisée. Elle a un vrai potentiel, dit-il. Il suffit de creuser un peu pour se rendre compte que c'est une chouette gamine. La marche ou la marge, une histoire à lire dans Sphère, la revue des communautés consacrée cet automne aux pèlerins. Et un nouveau numéro arrive la semaine prochaine.
Merci beaucoup, vous nous avez mis en marche pour la journée. Il est 8h44, dans un instant, Laurent Gérard est avec nous.
7h-9h30, RTL Matin, Yves Calvi.
8h46. Excusez-nous, je ne sais pas. Ça nous prend le matin, mais... on a l'arrivée de Laurent Gérard toujours. Précédé, puis suivi d'un sourire.
Comment ça, 44 ?
C'est ça qui est troublant. Alors, bon, mettons les choses dans l'ordre. Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves. Reste sérieux.
Oui, voilà. Oui, c'est très important. Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Bonjour Monsieur Calvi. Là, c'est le signal, en effet. Jean Castex veut nous parler.
Un, deux. Allô, la Terre, ici, la Lune. Où est-ce que j'ai foutu mes lunettes, moi ?
Oui, on vous entend, monsieur le Premier ministre.
Ah, très bien. J'ai une annonce à faire à la Nation. Un troisième confinement n'est pas à exclure. Je répète, un troisième confinement n'est pas à exclure.
Oui, ben ça, on le savait déjà. C'est ce que vous avez annoncé aux députés lundi.
Ah, zut.
Ah oui, zut.
Et si je vous dis qu'un troisième confinement n'est pas certain, à moins qu'il soit absolument nécessaire, est-ce que ça vous va ?
C'est-à-dire que c'est la même chose. Hein ?
Ah, oui. Crotte de bique.
Crotte de bique.
De quoi pourrais-je vous parler alors ?
Parlez-nous par exemple de la campagne de vaccination.
Flûte, je vous entends mal, je passe sous un tunnel.
Mais qu'est-ce que vous racontez, Jean Castex ? Vous êtes à Matignon, là.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, bah oui.
Bien, puisque voulez tout savoir,
ouais.
Je vous annonce en responsabilité, que 138 000 personnes ont été vaccinées en 2 semaines. C'est un exploit, tant sur le plan logistique que sur le plan statistique.
Alors, d'après mes calculs, ça veut dire que 3 500 000 personnes seront vaccinées en un an et nous sommes 66 millions.
Voilà pourquoi je suis heureux d'annoncer aux Français qu'ils peuvent dès à présent réserver leur table au restaurant et leur place de spectacle pour l'année 2039. On dit merci qui ? Merci Jean Castex.
Eh ben, merci Jean Castex.
En responsabilité, je vous en prie.
Jordan Bardella, le député européen du Rassemblement national, a révélé que Marine Le Pen avait profité du confinement pour passer un diplôme d'éleveuse de chats.
Miaou, madame.
Ah, miaou, bonjour Marine Le Pen.
Oui, c'est ce que je viens de vous dire, miaou.
Oui.
On ne va pas faire des miaou miaou toute la journée.
Non.
Et faites attention, je griffe, madame.
C'est donc vrai, vous êtes devenue éleveuse de chats ? Je croyais que vous vouliez devenir présidente de la République.
Et alors, l'un n'empêche pas l'autre. Je peux vous dire que quand je serai à l'Élysée, je ne serai pas comme tous mes prédécesseurs. Dehors les labradors. Avec moi, l'Élysée sera le palais des chats. Il y en aura partout, madame, principalement des chartreux. Je dois avouer que je n'ai pas une passion pour les persans et les angora turcs.
Mais on s'en doutait. Ce diplôme d'éleveuse de chats explique-t-il votre relative absence en première ligne ces temps-ci, malgré la crise sanitaire ?
Mais détrompez-vous, madame. Vous pensez peut-être que je ronronne dans mon coin, mais ce n'est pas le cas. Je suis totalement concentré sur la question des vaccins.
Dites-nous alors ce que vous pensez des vaccins.
Eh bien, celui contre le typhus félin devrait être obligatoire. La vaccination des chats, c'est capital, madame. Je vous laisse, je dois faire ma toilette des mains.
Vous voulez dire du gel hydroalcoolique ?
Sûrement pas, j'ai les coussinets fragiles, madame. Je me débrouillerai très bien avec ma langue.
Très bien. Nous vous parlions la semaine dernière de Thierry Ardisson qui est de retour sur le service public avec une émission où il interviewera des personnalités disparues. Vous vous souvenez, monsieur Calvi ? Ramené à la vie grâce à des technologies numériques. Voici un extrait du prochain numéro.
Salut les Dédés, salut les CD, salut les décédés. Ce soir, pour ma nouvelle émission où je me prends pour Dieu, je rappelle sur Terre Jean d'Ormesson.
Bonjour, cher Thierry. Je vois que vous êtes toujours habillé en noir.
Alors là, je t'arrête tout de suite, mon Jando. On est en 2021. On ne dit plus noir, on dit racisé.
Racisé, comme c'est étrange. Et l'Académie française a laissé passer ça ?
Ouais. Enfin, non. Mais tu sais, en 2021, c'est plus les vieux mâles blancs de l'Académie française qui décident des mots qu'on peut utiliser. C'est les étudiants... .es décolonialiste en études de genre à la fac de Nanterre.
En études de genre. Mais qu'y a-t-il donc comme genre à étudier à part les hommes et les femmes ?
Oula ! Attention à ne pas invisibiliser les hommes menstrués et les femmes testiculées. J'ai pas envie de me prendre un blâme pour transphobie par le CSA.
Oula !
N'en prenez pas offense, mon cher Thierry. Mais je ne comprends rien à ce que vous racontez.
C'est normal.
Si c'est ainsi que l'on s'exprime en 2021, je ne suis pas mécontent d'avoir quitté le monde des hommes.
Le monde des hommes et des femmes. Attention, mon Jando, on est en 2021, c'est fini le patriarcat. J'ai pas envie de me faire shitstormer par Caroline De Haas sur Twitter.
Soit. Je vous laisse, cher Thierry. Je retourne à ma partie de Scrabble avec Alain Decaux et Michel Serres. Notre conversation m'a donné une idée. Je vais placer abêtissement en mot compte triple.
Très rare dans les médias, notre ami Francis Cabrel a accordé une interview fleuve à nos confrères de TF1. Dans cet entretien, il donne son avis sur la période difficile que nous traversons. Bonjour Francis Cabrel.
Bonjour à toi la femme du petit matin, avec ton poncho en pilou et ton rire où roulent les cailloux. Et bonjour à toi, le Yves Calvi, qui explique tellement bien cette époque de fou, le grand Manitou nous empêche de nous faire des poutous, d'organiser des barbecues et de jouer du bignou.
Justement, vous semblez porter un regard très sombre à notre époque et sur la situation de notre pays depuis votre petit village du Lot-et-Garonne.
À l'aube revenant dans mon village d'Astafort, quand je regarde par la fenêtre de mes yeux, je vois des mendiants et des fous avec des masques qui dansent dans la rue.
C'est déjà le carnaval chez vous ?
Non, ce sont des gens qui glissent sur les trottoirs gelés. Aïe. Depuis que le cantonnier Mamadou est reparti à Tombouctou avec son boubou. Plus personne ne sable les rues. C'est tellement casse-gueule.
Bon, revenons à la situation sanitaire qui vous a empêché de faire la tournée prévue pour votre nouvel album. Cela vous a beaucoup affecté, n'est-ce pas ?
Le virus est partout. J'ai annulé tous mes concerts sur le Ventoux, dans le Poitou, à Moscou. Chez les Papous et ça me rend fou. Je reste à Astafort dans la Gadou et je chante pour les hiboux, les choux, les loups et les poux.
Ah bah c'est déjà ça. Bah en tout cas, vous êtes resté toujours aussi poète et troubadour.
Et avant qu'arrive le redoux, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Et tu sais ce que je lui ferai dans son igloo.
Laissez-moi deviner. Je suppose que ça rime avec igloo. Alors, un bisou, des poutous, un haïku, un petit coucou, un scoubidou, un ragout.
Non, du brout minou.
Ouh là 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 là.
Car c'est elle que j'aimais, que j'aime et que j'aimerais. Et je voudrais qu'elle le suce.
Oui, merci.
Oui, j'entends bien. Brisons-la.
Voilà.
Bah alors, bon. Merci à toute l'équipe.
Ben oui.
Merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
On va compter les cailloux en quittant RTL tout à l'heure. Et on se retrouve d'ici là sur le site RTL.fr et dès demain au même horaire.
Merci. Cyril Lignac nous fait un ragoût.
Qu'est-ce alors, qu'il nous fait
bah on va faire une petite soupe avec Cyril Lignac.
Soupe au chaud.
Oui, et surtout pas aux cailloux, soyez tranquille.
Non, il n'y en a pas dans les lentilles.
Déjà, je vois un oignon plus une grosse d'ail au beurre. On se dit que ça va
ça
très bien. Voilà.
Ça part bien,
les petits croutons. Il y aura tout ce qu'il faut.
RTL Matin, Yves Calvi.
8h57, cher Cyril Lignac, bonjour.
Bonjour.
Marianne habite à Nice et elle vous demande votre recette de soupe de légumes d'hiver 2021. Et moi, je vais vous dire, je suis tout ouïe parce que j'adore ça.
Alors, déjà dans la soupe de légumes, on utilise tous les légumes d'hiver. Donc il y a du poireau, des topinambours, des pommes de terre. En fait, j'ai envie de dire, je vais donner une technique. Oui. Et ensuite, on met ce que l'on veut dans sa soupe.
Voilà.
Alors, une bonne soupe, ça commence toujours par un oignon et une gousse d'ail, parce que déjà on parfume, mm-hmm. et on y met du beurre demi-sel et on fait caraméliser. C'est la base de notre soupe, puisque ensuite il va y avoir que des légumes et de l'eau. Mm-hmm. Donc la bon départ, c'est vraiment l'oignon et la gousse d'ail. Alors, si on veut mettre un peu de viande, on peut mettre des lardons, pour commencer à donner ce goût de bouillon. Si on veut pas mettre de viande, on met pas les lardons. Et ensuite, on ajoute les carottes, les poireaux. Alors moi, je préfère les couper, les émincer, comme ça ils transpirent un peu avec le beurre et ça parfume. Ensuite, on y met du céleri en grande branche, puisqu'on l'enlèvera avant de mixer la soupe.
Céleri branche. Hein.
Céleri branche. Et ensuite, des pommes de terre pour la liaison. Mm-hmm. Des topinambours, parce que c'est la pleine saison et que ça donne un goût d'artichaut. Ouais. Et c'est délicieux.
Un goût de terre, au bon sens du terme.
Exactement. Et ensuite, on coupe donc tout ça en petits cubes. On fait bien revenir le mélange. Et ensuite, on met de l'eau. Si on veut rajouter un petit bouillon de légumes, on le fait. Sinon, on peut les laisser à l'eau pure, l'eau claire, et on laisse cuire tout doucement, et ensuite on peut ajouter des épices. Alors, soit on veut une soupe de légumes tradis,
oui.
soit on y met du cumin, du curcuma, du rasé lanout, du cinq épices, on a le choix de ce que l'on a dans la cuisine, et en fait ça va nous donner cette soupe de légumes un peu parfumée. On le cuit, ensuite on mixe, on enlève la grosse branche de
céleri. C'est ce que j'allais vous dire, on mixe. Hein.
Ah oui.
D'accord.
Parce que ça, c'est pas une soupe comme un consommé. Ça, c'est vraiment la soupe de légumes traditionnelle. Donc, on la mixe. On a la liaison avec les pommes de terre. Donc, on a suffisamment de texture. Si on veut... Alors là, j'ai pas rajouté dans la recette, mais j'avoue que moi, j'y mets de la crème fraîche.
J'étais sûr qu'il allait me dire ça. Je suis sûr qu'il met une tombée de crème fraîche.
Moi, je mets la crème fraîche dedans. Je mens pas, je mets un pot.
Oui.
Un petit pot comme ça.
Oui,
disons que on transforme la soupe des légumes en velouté.
Oui.
Et si on veut pas y mettre de crème, on sert comme ça. Alors, des petits croutons.
Oui.
Et du Beaufort d'alpage, des fromages d'alpage qu'on râpe et qu'on dépose dessus qui fondent.
Voilà. Ce que j'ai marqué. Et des lardons croustillants éventuellement.
En plus,
ça a démarré très simple. Je disais, ça y est, je peux enfin faire mon régime du mois de janvier. Et je termine avec de l'huile, du beurre, de la crème fraîche.
Et du fromage.
Et du fromage.
De Suisse.
Vous savez quoi? On aime beaucoup vos recettes et je vous dis à demain matin. On retrouve toutes ces informations sur le site RTL.fr. Et j'espère que Marianne est heureuse. RTL, il est 9h.